Salut à toutes et à tous, c'est Christophe. Petit message à visée promotionnelle avant le début de ce nouvel épisode. Notre partenaire PMU vous fait gagner 2 x 10 € de free bet en plus du bonus de bienvenue. Alors comment ça se passe du 9 au 22 mars, donc jusqu'au dimanche 22 mars à 23h59 pour être précis. Si vous arrivez sur le site PMU, que vous êtes un nouvel inscrit et que vous voyez arriver le code sport au moment de l'inscription, vous enlevez ce code sport, vous mettez VDB, qui sont les initiales de vue du banc. Vous faites un premier dépôt de 5 € minimum et puis les free bets 2 x 10 € seront crédités le lendemain. Donc voilà, jusqu'au 22 mars pour vous ou des gens que vous aimez. N'hésitez pas surtout et n'oubliez pas de jouer responsable. Tout de suite, place à un nouvel épisode.
Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 33e épisode de la saison 6 de Vue du banc. Un épisode enregistré à chaud et au milieu de la nuit après une journée de Ligue des Champions riche en surprises et en émotions. Peut-être la dernière journée de Ligue des Champions avant un petit moment, donc du coup on va analyser ça avec beaucoup de précision. Après donc la qualification du PSG face au Borussia Dortmund et de l'Atlético Madrid sur le terrain de Liverpool. Pour ça, m'accompagner au milieu de la nuit les deux tauliers, Florent Tonuti de Djibouti et de Chronique Tactique. Salut Florent.
Salut Christophe.
Et Raphaël Cosmidis qui nous a obligés à recommencer l'enregistrement puisqu'il avait fait n'importe quoi, il avait fait du bruit chez lui, c'était très compliqué. Raphaël Cosmidis de l'équipe du Red Star, salut Raphaël.
Salut Christophe, je suis en effet je suis complètement dévasté par ce qu'a vécu Liverpool ce soir, donc je ne maîtrise plus mon corps.
Oui, ni ton oiseau qui fait beaucoup de bruit chez toi. Mais avant de parler de Liverpool, Raphaël, on va parler de ta ville, d'un club qui t'a longtemps été très cher, à savoir le Paris Saint-Germain, qui a vécu un match assez bizarre. Alors, match à huis clos, donc forcément, par rapport à l'ambiance à Liverpool, ça tranchait forcément. Mais même au niveau du rythme, autant en Paris, j'ai l'impression que c'était globalement le même chose, on va dire, qu'au match aller. Mais je sais pas ce que t'en as pensé. Vraiment, Dortmund, j'ai pas compris quelle était l'idée de jeu générale. Quelle était l'intensité mise? Pourquoi est-ce que contre Gladbach en championnat samedi, ça courait partout? Là, ça attendait en bloc médian, sans courir, même une fois mené, il n'y avait pas forcément de sentiment d'urgence. Qu'est-ce que tu as pensé avant, bien sûr, de venir à Paris? Comment s'est joué ce match? Pourquoi Paris est qualifié? Qu'est-ce que tu as pensé de l'adversaire?
Non, mais en effet, tu as raison, c'était assez étrange, parce qu'on avait vu un Dortmund très bon à l'aller en termes d'intensité, de la vitesse dans la circulation du ballon. Dans les 1 contre 1, des joueurs très déterminés, des joueurs mobiles et qui montraient beaucoup de vivacité. Et là, on a vu sur ce match retour, où ils sont pourtant au départ dans des conditions favorables, une équipe pas forcément mauvaise, parce qu'il y a eu des bonnes séquences, il y a eu quelques temps forts, mais une équipe qui a jamais semblé dans l'urgence et dans l'idée d'aller chercher tout de même un quart de finale de Ligue des Champions. Alors peut-être qu'ils savaient déjà qu'ils avaient eu une info que ça allait être suspendu ou qu'ils avaient peut-être des cas de coronavirus pas loin et ils se sont dit « bon, les gars, ça sert à rien, de toute façon, on va pas pouvoir continuer ». Mais là, pour le coup, on n'a pas senti chez Dortmund cette idée de se dire « bon bah, même si on est mené 2-0, ça va vite, il suffit qu'on mette un but, ça part en prolongation, il n'y a pas de supporters, donc que ce soit domicile ou extérieur, quelque part, ce facteur est un peu, cette variable est un peu effacée ». Et puis je prends l'exemple du carton rouge d'Emre Can en fin de match, où il reste quand même 4-5 minutes derrière, lui prend un rouge pour une petite embrouille avec Neymar, où le Real se rate un peu, parce qu'en plus je vois pas j'ai pas compris ce qui s'était passé exactement, j'ai l'impression que ça commence à se chauffer. Derrière, le caméraman disparaît, ou je sais pas, le Real disparaît, il prend un rouge. Et puis il prend un rouge, il dit bon, je prends un rouge. Oh bah ok, bah je vais au vestiaire. Oui, il y a quand même 6-7 minutes à jouer pour aller gratter un quart de finale. Ils avaient mis plus chaud pour s'embrouiller avec les joueurs du PSG que pour derrière aller chercher une qualif. C'était vraiment très très particulier. Les images de joueurs du PSG, de joueurs qui courent aussi dans un stade vide, c'était assez grotesque. Et le dernier truc dont je voudrais parler, je vais vous poser une question parce que je l'ai remarqué très vite sur le match et ça m'a fait rigoler tout seul. Pourquoi il y avait des stewards? Et pourquoi
Hidalgo.
Et deuxième question, pourquoi ils regardaient les tribunes?
Bah parce que c'est leur job,
c'est leur steward, ouais.
Mais mais là il y a personne qui va envahir le terrain. Mais laissez-les regarder le match au moins. Les mecs ils sont là, ils viennent dans le froid, il y a rien à surveiller, ils ont pas de job, ils ont rien à regarder. Et ils regardent des tribunes vides. Il y a quoi? Il y a une chaise qui va se propulser sur le terrain. C'est quoi le? J'ai vu ça. Du coup, j'ai trouvé ça absurde. Et ça m'a sorti du match pendant quelques instants. Je me suis dit, mais attends, mais ça doit être très très long. Parce que déjà, être steward, c'est un job qui, je pense, est assez pénible. Qui consiste à fixer des mecs qui vivent plus d'émotions que toi. Et tu comprends pas ce qui se passe dans ton dos. Et en plus, le moment où tu dois bosser, c'est pour aller essayer de tacler ces mecs qui essayent d'envahir le terrain. Donc, il n'y a pas de partie du boulot où tu te dis, ah, quoi que explique la partie fun, en fait, d'aller schlapper un mec. Mais là, pourquoi il y avait des stewards assis face aux tribunes? Ils protégeaient qui contre quoi? De quoi? Bref. Voilà, mais ça fait partie un peu du grotesque de la rencontre.
Ce qu'il faut dire, Florent, puisque autant Raphaël a vu ça en différé, donc il n'a pas interagi avec nous, autant nous on a suivi ça ensemble par écrit, c'est qu'on avait quand même l'impression que le match était beaucoup défini par le manque d'intensité, le manque de rythme et le plan assez limite de Dortmund. Alors on viendra quand même au PSG, parce que voilà, c'est l'équipe française, c'est l'équipe qualifiée, il y a aussi quelques trucs à dire. Mais finalement, on pestait surtout de ce que faisait, de ce que ne faisait pas Dortmund, parce que c'était vraiment la grosse variable par rapport au match aller.
Ouais, bah Dortmund, ils ont posé leur bloc médian en 5-4-1, qu'on voyait déjà au match aller par séquence, lors des séquences de possession parisienne. Mais donc, ils posaient leur bloc médian en 5-4-1, comme je le disais. Paris avait sa phase de possession qui ressemblait beaucoup à celle du match aller, où il y avait quand même assez peu de risques pris et assez peu de joueurs entre les lignes. Soit on trouvait Neymar pour avancer, soit on cherchait directement la profondeur avec Cavani ou Sarabia pour faire les appels. La dimension supplémentaire du PSG, c'est qu'une fois dans les 30 derniers mètres de Dortmund, il y avait un contre-pressing qui se mettait en place, et sur les sorties de balles de Dortmund aussi, il y avait un pressing haut du PSG qui leur a permis de gratter des ballons. Et d'ailleurs, le second but vient d'un ballon gagné, je crois, dans le rond central, ou à peu près dans cette zone-là, pardon, par Bernat. Le premier but sur coup de pied arrêté, voilà, ça fait 2-0. Et c'est vrai qu'en face, côté Dortmund, à 1-0 déjà, où ils sont éliminés à 1-0, on attend une réaction qui n'arrive pas. En début de deuxième mi-temps, pareil, on attend une réaction, peut-être une équipe qui irait mettre un peu plus de pression dans le camp parisien. Et on se dit aussi d'ailleurs que si le PSG fait entrer Mbappé à ce moment-là, ils peuvent aussi faire mal à Dortmund en contre-attaque. Et en fait, il va quasiment rien se passer jusqu'à la 70e et l'entrée en jeu de Julian Brandt, où là, le match bascule un petit peu puisque Dortmund s'installe dans le dernier tiers parisien, mais par contre se heurte à certaines limites individuelles et des joueurs vraiment en dessous de leur niveau. On peut penser à Sancho et Hakimi, qui fait que sur ces 20 dernières minutes, ils ne vont tout simplement rien créer.
Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de bon, déjà du dispositif parisien, qui n'était pas le même qu'à l'aller, avec en plus des joueurs, alors soit des positions inattendues, soit qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Kerrer qu'on n'a pas trop vu cette saison, là Sarabia qui se retrouve devant. Sur l'animation générale de Paris, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu, à la fois avec et sans ballon? Sans que surtout, c'était surtout avec ballon que le match se déroulait, parce que Paris a quand même eu pas mal la possession pendant 1 heure.
Bon, ce qui m'a plu, c'est qu'on a retrouvé les recettes qui marchent à chaque fois pour le PSG, et Flo pourra le confirmer aussi, des tours d'éliminatoire qui fonctionnent pour le PSG, c'est-à-dire des joueurs de côté qui vont venir à l'intérieur, Di Maria et Neymar notamment. Donc la première grosse occasion pour le PSG, l'occasion de Cavani, là, c'est sur Di Maria qui vient à l'intérieur et qui trouve Cavani lancé. Il me semble, hein, je crois que c'est
Ouais, c'est ça.
quand la frappe est croisée, qu'elle est détournée par Bourki juste à côté de son poteau. On a vu un Neymar aussi venir un petit peu à l'intérieur, donc le 4-4-2 était intéressant parce qu'il a vite en fait été un dispositif qui penchait à droite parce que Sarabia était assez axial en retrait de Cavani, Neymar venait aussi à l'intérieur, Di Maria venait à l'intérieur mais demi-espace droit, puis t'avais à l'opposé un Bernat qui arrivait à animer un peu tout seul tout ça, mais c'était les recettes qui fonctionnent habituellement pour le PSG et que ce soit d'ailleurs avec Emery ou avec Tuchel. Donc là-dessus, c'était plutôt rassurant. Et puis l'autre aspect, plutôt sur la phase défensive, c'est que le 4-4-2 a bien marché parce que tous les joueurs ont fait les efforts, et notamment Neymar, que j'ai trouvé beaucoup plus actif qu'au match aller, notamment en première période. Il s'est un peu endormi en deuxième dans ce domaine-là, mais en première période, il a répété les courses, il a agi à la perte de balle, il a parfois déclenché des pressings, au moins il les a suivis à la même intensité que le premier qui le lançait. Donc c'était vraiment positif de ce point de vue-là, et ça s'est un petit peu éteint en deuxième, notamment quand Neymar et Mbappé se sont retrouvés ensemble sur le terrain et qu'on est retombé un peu dans les travers du PSG qu'on avait vu au match aller.
Ouais, Florent, ce qu'il faut dire, c'est que là, Neymar a prouvé que, alors face à un adversaire qui a aussi facilité les choses, mais c'est finalement pas si difficile que ça de faire un peu d'effort au pressing et de défendre en avançant comme tout le monde quand les lignes sont bien resserrées. Voilà, enfin, t'as pas l'impression que Neymar a fait des efforts incroyables, mais n'empêche que ce minimum-là, ça lui a permis de s'intégrer dans la structure générale à Paris, de défendre en avançant et de récupérer assez vite les ballons. Alors, Il y a aussi la fin de match qui est faite, comme le disait Raphaël, avec Mbappé, où là, il le fait moins, donc du coup, ça l'a peut-être fait, lui a peut-être un petit peu fait oublier tout ça, mais ça lui rappelle que quand il faisait les efforts et qu'il était à Barcelone, les choses se passaient plutôt bien et ça n'empêchait pas de faire aussi quelques différences offensives.
Oui, on notera d'ailleurs qu'à Barcelone, les efforts défensifs, il les faisait justement dans la même position qu'il était sur ce match-là, c'est-à-dire à gauche dans un 4-4-2 en phase défensive, puisque le Barça c'était Messi, Suarez, Neymar à gauche et c'était Rakitic qui fermait côté droit. Oui, bah il a fait les efforts, il a surtout suivi, en effet, comme le disait Raphaël, il a surtout suivi ce que faisaient Cavani et Sarabia en première ligne. Et ces deux-là ont maintenu Paris dans une situation favorable pendant un peu plus d'une heure sur ce point du pressing. Et oui, après Neymar, de toute façon, on savait depuis le Barça qu'il est capable de rentrer dans ce genre de projet et de se mettre au travail comme les autres. Maintenant, au Barça, il n'avait pas le statut qu'il a au PSG, mais là, malgré son statut, il a montré qu'il était capable de le faire. Après, de toute façon, si Paris n'avait pas retrouvé ça et n'avait pas mis plus, au moins plus d'intensité par rapport au match aller, là finalement ils en ont même mis plus que Dortmund. Je crois qu'à la mi-temps ils étaient même à, si je me souviens bien du décompte que fait RMC sur les sprints effectués, je crois qu'ils avaient fait 40 sprints de plus, il me semble, que Dortmund sur la première mi-temps. Ben voilà, c'est un écart quand même assez conséquent. C'est 20 ou 30, entre, ouais, c'était 20% de plus, je crois, au total. Donc c'est un écart très conséquent et ça explique en grande partie pourquoi Paris a été supérieur. D'ailleurs, ça rebondit un peu sur le podcast qu'on a fait lundi. Faut-il presser pour gagner? Bah, Paris a prouvé par rapport à ce qu'a montré Dortmund en face que oui, ils ont plus pressé et ils ont gagné très logiquement.
Raphaël, qu'est-ce que tu penses de la fin de match, on va dire les dernières 20-25 minutes? Dortmund, sans forcément beaucoup mieux jouer, se met à être un petit peu plus présent, pressant. Le PSG recule. Le PSG en deuxième mi-temps, Florent nous détaillera les chiffres qu'il a notés après. Le PSG n'a quasiment rien en deuxième période alors qu'il fait rentrer Mbappé. À quoi tu l'attribues? Alors, il y a l'entrée de Mbappé à la place de Sarabia à la 64e, il y a l'entrée de Brandt à la place d'Hazard à la 69e. Il y a aussi quand même une augmentation d'intensité côté Dortmund, ce qui n'est pas forcément matché à ce moment-là par le PSG. Il peut y avoir, je sais pas, une appréhension, un aspect psychologique, un avantage à défendre. Comment est-ce que tu expliques cette bascule qu'il y a au fur et à mesure du match, alors qu'au début, Paris était quand même assez nettement supérieur?
Ouais, j'ai l'impression que ça recule quand même dès le début de la deuxième, où il y a un temps fort de Dortmund entre la 46e et la 50e, là où ils ont beaucoup de centres, l'effondrement un peu du premier rideau et des quatre joueurs de devant du PSG qui ont un peu moins participé défensivement en deuxième période. Je pense que la raison vient de là notamment. Après, ce qu'on peut regretter, si on est supporter de Dortmund ou sympathisant de Dortmund, c'est quand même c'est comment les supériorités sur les côtés ont été jouées. Avec souvent des joueurs qui arrivent lancés mais qui centrent de manière un peu hasardeuse. Il y a quelques situations où ils sont vraiment à 20-25 mètres des buts. Ils ont la capacité soit de frapper, soit de trouver un joueur lancé dans le dos de la défense et ça fait circuler d'un côté à l'autre pour finalement centrer et faciliter la tâche pour le PSG dans les airs avec des dégagements de Kimpembe, de Marquinhos. Mais c'est vrai qu'on a senti un PSG un peu plus fébrile en deuxième, des transitions aussi mal jouées parce que le PSG aurait pu tuer le match avec ces transitions-là, et paradoxalement, l'entrée de Mbappé les rend pas meilleurs sur transition, parce que souvent, à ce moment-là, quand Neymar et Mbappé jouent ensemble, la moindre transition, ils vont aller dans la même zone du terrain et chercher à combiner, forcément par du jeu court ou en répétant des passes, et un peu casser le rythme des transitions. Tu vois, j'aurais bien aimé voir un Mbappé beaucoup plus vertical à la récupération du ballon, proposer des courses, ne serait-ce que pour créer de l'espace aux autres. Et sinon, en plus, pour lui recevoir, mais souvent son premier réflexe, ça a été de venir proche de Neymar et de un peu calmer le rythme. Je trouvais ça un peu dommage parce que je pense qu'en plus Dortmund aurait pu exploser deux, trois fois sur des transitions rapides après l'entrée de Mbappé. Ça n'avait pas été fait et ça a permis encore plus à Dortmund d'avancer, 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 de rester proche du but parisien. Mais dans l'ensemble, match vraiment, comme je le redis, hein. Match vraiment étrange parce que tu te dis que si ce match-là est disputé avec du public, peut-être que Dortmund revient à 2-1, peut-être que le PSG veut mettre 3-4-0 avec ses transitions. Là, le 2-0, tu as l'impression que les deux équipes faisaient bon, bah, allez, 2-0, c'est bon. Et ça, c'est vraiment une sensation que j'avais. En fait, on a déjà vu des matchs à huis clos en championnat parce qu'il y a eu des sanctions contre les supporters sur un match de championnat ponctuel, mais là, le voir sur un match avec un tel enjeu. Suite à un match aller qui, lui, s'était disputé avec des tribunes pleines, C'était un peu hors du temps comme situation.
Mais tu vois, je vais aller plus loin parce que effectivement, on n'a pas forcément le recul sur les matchs à huis clos qui généralement sortent un petit peu de nulle part et sont parfois pour des équipes soit dans la difficulté sportivement, soit en fin de saison, soit c'est juste une tribune à huis clos. Mais la veille, il y avait le match de l'Atalanta à Valence qui était également à huis clos et il y a une victoire 4-3 de l'Atalanta. Et t'as alors. Je pense quand même que, enfin, je sais pas à quel point le manque de bruit, le manque d'ambiance fait qu'on voit moins de rythme qu'il y en a. J'ai trouvé qu'il y avait quand même moins de rythme qu'au match aller, mais aussi parce que l'Atalanta avait quand même fait un bon break. Mais c'était quand même largement plus disputé au moment où Valence passe devant et met 3-2 ou 3-1, je sais plus, 3-2 je crois. Tu te dis, même si encore 2-3 buts à marquer, Valence pousse vraiment, t'as quand même une espèce de folie qui s'empare du match. L'Atalanta procède par transition. Bon, l'Atalanta met ses transitions, mais tu vois quand même la dynamique du match et l'enjeu du match prendre le pas sur ah, il n'y a pas d'ambiance, machin quoi, ça, il n'y a pas de léthargie particulière. Ça s'emballe peut-être pas autant que ça se serait emballé dans un contexte normal, alors que là, pas du tout. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai du mal. Alors, je l'entends, l'argument du huis clos, et je me doute bien que ça ne doit pas être facile quand tu es joueur, mais ça n'avait pas tellement inhibé Valence la veille. Donc, c'est-à-dire que c'est assez étonnant que ça ait inhibé, j'allais dire deux équipes, c'est que ça ait surtout inhibé Dortmund. Après, ce que tu disais là sur les transitions en deuxième période, c'est vraiment un point qui t'intéressait, toi, Flo, dans la mesure où bah, pendant toute la première période, tu te disais là, ça va être un petit peu chiant pour Dortmund, parce qu'ils vont à un moment devoir se livrer, et s'ils se livrent en deuxième, l'entrée de Mbappé va les sanctionner. On a quand même tous les images en tête de Mbappé à la fois avec Monaco et l'équipe de France, où finalement il n'y avait même pas besoin de quelqu'un pour combiner, tu lui balançais la balle ou il l'a poussée et puis c'était bon courage pour le rattraper. Et là, il n'y a rien en fait quasiment pour Paris. Je crois que tu as les chiffres, il y a trois tirs, il me semble, c'est ça?
Ouais, trois tirs pour Paris, mais deux sur coup de pied arrêté. C'est le très joli coup de pied arrêté de Di Maria, un peu avant l'heure de jeu, il me semble. Ensuite, tu as le coup de pied arrêté de Neymar en fin de match, et entre les deux, il y a un tir contré de Mbappé. Mais c'est tout, et c'est vrai que c'est quand même très surprenant. Déjà, au-delà du cas de ces trois tirs, sachant qu'en face, dans le même temps, sur la deuxième mi-temps, Dortmund se crée 7 tirs, mais 6 tirs à l'extérieur de la surface et un seul tir à l'intérieur, c'est Zagadou, et je crois que c'est sur un coup de pied arrêté aussi. Tu te dis que quand même, t'avais le PSG et Dortmund, on aurait difficilement parié sur un match retour avec 19 tirs au total dans le match, connaissant les deux équipes. C'est quand même quelque chose d'assez surprenant et c'est vrai que surtout dans la situation où Dortmund doit aller chercher son résultat, mais au final vu que Dortmund n'en a pas forcément plus fait, c'est pas forcément très surprenant de voir que le PSG n'a pas non plus créé beaucoup de transitions puisque Dortmund n'était pas forcément non plus très déséquilibré puisqu'il poussait pas plus que de raison alors que ils étaient quand même éliminés à ce moment-là.
Raphaël, quelles sont les individualités qui t'ont sauté aux yeux, en bien ou en mal?
Bah alors, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop aimé le match de Sancho, notamment Flo.
Pas
Absolument
du tout.
pas.
Flo l'aurait noté 0 sur 10, il a pété un plomb tout le match.
Mais alors que je le trouve des années-lumière au-dessus de tous les autres joueurs. Ça n'a aucun sens, c'est une distance, mais très loin au-dessus de tous les autres joueurs du Dortmund. Vraiment, enfin, je sais pas, toutes ces prises de balles, tout ce qu'il faisait avec les ballons était beaucoup plus propre que ce que les autres faisaient. En tout cas, du côté de Dortmund, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé Zagadou et Piszczek un peu dangereux dans leur prise de balle et leur prise de risque balle au pied. C'est souvent là que le PSG a récupéré le ballon. Donc, deux, trois pertes de balles dangereuses de Zagadou, une de Piszczek où c'est Mbappé qui récupère dans ses pieds, ça peut lancer un contre, ça marche pas. Et puis, du côté parisien, bah, Marquinhos a été bon. Kimpembe refait un match de très bon niveau. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu faire un match comme ça. Bernat, évidemment, très bon, comme souvent. Paredes a été simple comme il l'a fait, mais il a souvent cassé à l'intérieur. Il a été pas mal dans ce domaine. Franchement, l'ensemble des Parisiens a été satisfaisant. Je trouve que Neymar fait vraiment une belle première période, beaucoup moins en deuxième. Il retombe un peu dans ce qu'il avait fait au match aller. Mais dans l'ensemble, un bon match des Parisiens, après, contre une équipe qui leur a laissé pas mal d'espace. Et où, en face, je saurais pas trop quoi dire de pas mal des joueurs qui ont laissé une impression un peu spéciale.
Alors, avant de lancer Florent, pour provoquer l'un des rares débats dans l'histoire de cette émission où il y a deux avis totalement opposés sur une situation et en l'occurrence un joueur, question un petit peu embêtante, hein, mais Paris gagne 2-0 sans forcément énormément de marge et sans faire grand-chose en deuxième période face à un adversaire que tu décris toi-même comme qui donne l'impression de ne pas être très intéressé par le match et qui du coup est loin d'être l'adversaire le plus difficile à battre. Et malgré tout, tu trouves que les Parisiens ont dans l'ensemble été plutôt bons. Est-ce que ça veut dire que le 2-0 est mal payé? Est-ce que ça veut dire que tu as peu d'ambition pour cette équipe-là? Parce que moi, je t'avoue que je n'ai pas été spécialement séduit par cette équipe-là. Je me dis, si ça, c'est un bon match, ça veut dire qu'à moins d'avoir beaucoup de réussite face à un adversaire, même type Atalanta Leipzig, ça ne passera pas, quoi. Donc, comment est-ce que tu peux réconcilier le fait de trouver les Parisiens bons et le fait que cette équipe passe sans forcément briller?
Compliqué à dire, parce qu'ils ont été dans un... En fait, le match aller avait été tellement mauvais que les attentes n'étaient pas très élevées. Tu disais, s'il faut une prestation entre guillemets collective, déjà, ce serait une bonne chose. Neymar avait un peu plus de rythme, il a été plus inspiré dans ses passes. Kimpembe a été beaucoup mieux, même balle au pied, a été plus juste dans ses prises de risque. Mais ils ont fait face à une intensité beaucoup plus faible que ce qu'ils avaient vécu à l'aller. Donc c'est toujours ce rapport de force difficile à mesurer, tu vois. Parfois, t'as l'impression que ton équipe a fait un bon match, puis tu vois que l'adversaire, en fait, n'était pas du tout au niveau qu'il avait habituellement. Peut-être parce que toi aussi, t'as été bon. Mais c'est le fait que le niveau des équipes soit interdépendant, ça rend l'analyse parfois très compliquée, tu vois. Parfois, t'as l'impression que t'as fait un super match et c'est parce que l'adversaire était mauvais, mais tu ne peux pas contrôler ça. Tu peux rendre l'adversaire mauvais, mais s'il est de lui-même, tu peux difficilement t'enlever le crédit aussi. Donc en tout cas, ils ont été bien sur le plan individuel, ils ont été bien sur le plan collectif en première période. Il y a eu un peu une retombée en deuxième, mais c'est vraiment, je pense, par rapport à ce qu'on avait vécu au match aller, où moi j'étais sorti du match aller complètement désespéré par ce qu'avait fait Paris. Et là, en première, de voir Neymar courir, de voir une équipe à défendre en avançant, de voir des centraux qui allaient devancer Haaland, devancer Hazard, devancer Brandt en deuxième, là, ça faisait du bien, finalement. Et c'est pour ça que tu t'en ressors avec une impression positive.
Ouais, je vois, toi, tu utilises l'interdépendance dans un sens, moi dans l'autre. C'est-à-dire que je vois tellement Hakimi mauvais que j'ai du mal à vraiment m'enflammer sur le match de Bernat, parce que je me dis Hakimi a eu tellement gâché d'opportunités de centre, c'est qu'au départ il a donc eu ses espaces pour centrer et que donc il y a aussi un boulot qui n'a pas complètement été fait dans le côté Neymar-Bernat. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été mauvais, hein, parce que Bernat a encore globalement fait son match, ce qui est un peu une habitude pour lui sur les grands matchs de Ligue des Champions et qui tranche avec son époque Bayern, où au contraire il était plutôt bon en championnat et pas bon sur les matchs qui comptaient. Mais du coup j'ai tendance à relativiser, parce que je me dis, si on ne juge pas la finalité des actions mais le fait qu'il y en ait beaucoup, il y avait de la marge pour l'amélioration. Florent, sur Hakimi, sur Sancho, déjà quand même un petit mot sur Sancho, parce que tu es ressorti très énervé du match de Sancho, qui était pour toi l'un des plus mauvais sur la pelouse. Qu'est-ce qui t'a pas plu?
Bah, parce qu'il n'y avait aucune pénétration dans son jeu. À aucun moment, d'ailleurs, ça se voit quand on va voir ses stats et la map de ses passes notamment. Il y a beaucoup, énormément de passes latérales, mais il y a aucune pénétration, très peu de jeux vers l'avant. Et c'est là qui m'a déçu, en plus de certains mauvais choix qui étaient particulièrement frustrants. Après, oui, techniquement c'est propre, mais c'était souvent pas dans le bon tempo. Par rapport à ses partenaires, par rapport aux Parisiens aussi qui se replaçaient.
Mais il n'y avait aucun tempo chez Dortmund, donc c'est compliqué, tu vois. C'est...
Non, mais je veux bien, mais je pense qu'il en était aussi un des principaux responsables de l'absence de...
Parce que c'est censé être l'accélérateur de particules, malgré tout.
Ouais, mais je sais pas, il est tellement explosif, rien que juste sur des prises de balles, juste pour éviter le pressing, qu'à chaque fois que je le vois jouer, je kiffe énormément, et j'avais pas... Et comme je le découvre de plus en plus, et que j'avais cette image un peu d'un ailier percutant qui va être un peu monomaniaque et qui est finalement pas comme ça, est capable de jouer à l'intérieur, de bien se déplacer, bah ça me plaît beaucoup. Il y a des choses très simples qu'il fait, qui ont pas forcément fonctionné, mais de redemander, de tenter des appuis remises, qui sont assez rares finalement dans les ailiers aujourd'hui, que ça fait plaisir de le voir. Après, en effet, c'est pas le Sancho qu'on a vu au match aller, mais c'est pas non plus les autres joueurs de Dortmund qu'on a vu au match aller. Donc il avait été le meilleur parmi une bonne équipe au match aller, peut-être. Là, il a été, selon moi, le meilleur dans une équipe qui marchait pas. Parce que, je sais pas, est-ce qu'on a vu un bon match de Witzel? Est-ce qu'on a vu un bon match de Chan? Est-ce qu'on a vu un bon match de Hummels, Zagadou, Piszczek?
Pour moi, Chan, c'est le meilleur de Dortmund ce soir. Sur ce match-là, celui qui s'en sort le mieux, c'est le seul qui est au niveau d'intensité requis, j'ai trouvé. Dans l'engagement, dans l'intensité, puisque c'est le fameux mot. C'est le seul que j'ai trouvé au niveau, peut-être avec Guerrero aussi, qui fait un bien meilleur match que Hakimi à droite, qui est cataclysmique malheureusement pour lui. Après, je crois que Christophe pourra en parler notamment.
Après, l'intensité, c'est un peu la marque de fabrique de Chan, donc je suis pas sûr qu'il soit capable de jouer autrement, en fait. Tu vois, c'est...
Ouais, non, mais au moins, lui l'a fait.
Ouais, c'est... mais dans les 25-30 derniers matchs, je l'ai pas trouvé très, très juste dans ce qu'il a fait. Il a ouvert parfois à l'opposé. Après, c'était pas non plus son taf d'être là et de faire ses diffs là, mais c'est vrai que pour Thorgan Hazard, par exemple.
Oui, il a été très, très neutre, on l'a pas vu, Hazard, ce soir. Donc,
mais c'est. S'il y a encore des matchs à huis clos, il y en a beaucoup, ça va être compliqué d'analyser parce que l'ambiance, le contexte fait quand même vite partie de la performance. Tu le vois même, je prends l'exemple des petits, hein, quand il y a des parents qui gueulent ou qui mettent de l'ambiance ou qui chauffent parce qu'il y a une des deux équipes qui revient. Bah vite, ça met de l'intensité, ça met de la vitesse, ça met de l'énergie. Quand un match est un peu calme parce que le score est fait ou que je sais pas, les parents sont calmes ou il n'y a pas beaucoup de parents adverses, bah l'intensité retombe vite. Et là, quand tu fais un écart entre 48 000 supporters, dont 2-3 000 de Dortmund, j'aurais imaginé, et là, zéro, avec en plus des consignes... Enfin, quand tu entends un peu les consignes de tes partenaires et qu'il n'y a pas de bruit et que le coach te parle et que tu peux écouter tranquillement... T'as vraiment l'impression soit d'être à l'entraînement, soit d'être limite à faire un petit match au five où t'entends ce que disent les mecs autour de toi et qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc je pense que quelque part, Paris l'a moins subi que Dortmund. Peut-être parce que quand ils sont arrivés au stade, là je voyais une interview de Tuchel, ils ont été accueillis par le parquage extérieur et ça les a peut-être un peu chauffés et les a mis dans le match. Alors que Dortmund n'a pas vécu ça, donc ils sont arrivés à Paris tout seuls, il n'y avait pas de supporters, il n'y avait pas de bruit, je sais pas. Mais en tout cas, s'il y a d'autres matchs comme ça qu'on doit analyser dans Vue du Banc, il va falloir prendre en compte ça parce que ça change beaucoup de choses.
Bah surtout pour Dortmund qui a l'habitude d'avoir un énorme cop aussi à domicile.
Ouais, donc, ça, ouais. Oui, et puis les Allemands ont l'habitude de voyager en nombre quand ils font des déplacements, donc ouais. Je crois que tu avais vécu ça, Flo, à Bordeaux-Francfort, il me semble, en Ligue Europa.
Ouais, ils étaient venus à 13 000, je crois, 12 ou 13 000. Ouais. Il me semble que c'est encore le plus gros parquage, à moins qu'eux-mêmes aient battu le record l'année d'après ou 2-3 ans après, je ne sais plus.
Ouais.
Ils ont peut-être battu l'année dernière.
Là, s'il y a un parquage de Dortmund, je ne pense pas que Dortmund fait la même première période, par exemple.
Oui, c'est possible. Et dernier joueur aussi, on ne l'a pas évoqué, mais dans un PSG voilà, où il fallait suivre notamment les courses de Cavani, Sarabia, bien accompagner le pressing. Alors forcément, c'est un registre qu'on n'apprécie pas tous parfaitement, mais Idrissa Gueye fait un gros match, j'ai trouvé, dans son registre habituel, très monomaniaque. Mais du coup, je suis allé vérifier ses stats, et en effet, il finit la rencontre avec 8 tacles tentés, 8 tacles réussis. Et c'est le Parisien qui a récupéré le plus de ballons. Donc voilà, pas très surprenant. Mais il a répondu présent là où il fallait, là où il était attendu et là où Paris devait en faire plus par rapport au match aller. Après, c'est vrai qu'avec la balle, on l'a pas vu, mais ça, on en a l'habitude.
Florent, deux petits noms. Un que tu as évoqué rapidement pour me lancer, mais je vais te relancer. Hakimi. Qui, alors on a beaucoup parlé de lui en début de saison parce que à la fois sur l'impression dégagée mais aussi sur les stats, je crois que ça a été longtemps le meilleur buteur de Dortmund sur la Ligue des Champions. Là maintenant que le parcours est fini, c'est peut-être encore le meilleur buteur. En tout cas, je sais qu'il avait été assez efficace sur la phase de poule. J'ai l'impression qu'en fait, il est, alors c'est un peu difficile de le réduire à ça, mais que ça peut être un très bon joueur en transition qui va faire le bon choix une fois qu'il est lancé, qui va être capable de faire cette dernière passe avec la tête levée et le ballon devant lui, ce qui parfois est justement quelque chose que les gens n'arrivent pas à faire, ils perdent leur lucidité quand ils courent avec le ballon, mais qu'à l'inverse, face à une défense placée, quand il faut faire des centres, qu'il a un tout petit peu moins de temps et qu'il faut être un petit peu plus précis parce que l'adversaire est globalement regroupé et qu'il faut vraiment mettre la balle au bon endroit, il n'arrive pas. C'est ça qui me marque chez lui, c'est qu'il court très vite. J'ai l'impression que la course n'altère pas sa lucidité. Mais quand tu le trouves juste, qu'il fait son petit appel, qu'il se démarque et qu'il doit centrer un peu en bout de course, c'est tout de suite plus compliqué. Alors, ce n'est pas la seule raison de l'échec de Dortmund, mais s'il réussit l'un de ces je ne sais combien de dizaines de centres, peut-être que Haaland a 2-3 ballons à toucher, même si Haaland a aussi pas été forcément juste techniquement et il a pas facilité la tâche de ses partenaires. N'empêche que y a ça aussi, c'est à partir du moment où t'as de l'espace sur les ailes, mais que cet espace t'arrives pas à le bonifier, c'est tout de suite un peu embêtant.
Ouais, c'est vrai que son match est très compliqué. Julien nous avait sorti les stats de ses centres. Il en réussit deux, mais c'est deux centres qui atterrissent sur Guerrero de l'autre côté. Donc,
oui, en fait, c'est des centres trop longs. C'est juste que ouais. Guerrero s'est projeté, donc il peut la récupérer. Mais en fait, c'est pas du tout réussi.
C'est ça, c'est des centres ratés malgré tout. Ouais, non, il fait un match très difficile. Au-delà de ce qui se passe dans les derniers tiers face à une défense du PSG repliée, il y a aussi énormément de déchets dans d'autres zones du terrain, des contrôles ratés qui finissent en touche ou des passes là encore pas dans le bon tempo comme je l'évoquais tout à l'heure pour Sancho. Ça a été un des pires, mais ça revient peut-être. Tu dis qu'il a besoin de faire beaucoup de courses, etc., d'arriver lancé pour faire des différences et être à son meilleur niveau. Mais dans une équipe justement où il n'y a pas de tempo, on en revient à ce que disait Raphaël tout à l'heure, dans une équipe où où le jeu est arrêté, où il n'y a pas de mouvement, eh ben peut-être que oui, il y a de fortes chances qu'un mec comme Hakimi se retrouve à contre-temps et finalement rate. Quasiment tout ce qu'il entreprend sur les 90 minutes de jeu.
Raphaël, est-ce que tu as un avis sur l'entrée de Julian Brandt l'un de mes trucs que j'avais en t'attendant avant d'enregistrer le podcast, c'est de me dire que finalement, le match contre Gladbach, alors je ne sais pas si l'intensité mise sur ce match-là a fait que Dortmund est cramé, ça me semble bizarre quand même. Voilà, que tout se soit joué sur un match de championnat auparavant, mais c'est vrai que la différence, j'invite tout le monde, si, de toute façon, je pense qu'il y aura peut-être plus de foot pendant un certain temps, en tout cas qu'il y aura des longues pauses, donc on aura le temps de se faire des replays. J'invite les gens à voir ce match, à comparer le match de samedi avec celui-là, et ça rend la différence totalement incompréhensible. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Hazard était tellement bon sur ce match-là, face à son ancienne équipe, que Favre s'est senti obligé de le mettre. Sauf que Hazard, dans ce contexte-là, un petit peu différent, a beaucoup moins réussi à briller entre les lignes, un peu moins de qualité technique, je pense. Alors que l'entrée de Brandt a fait beaucoup de bien. Et je me dis, tiens, si Brandt entre 10 minutes plus tôt, voir s'il est titulaire, est-ce que ça change pas tout? Alors c'est bizarre de dire c'est la faute d'Hazard d'avoir été trop bon et du coup l'entraîneur s'est senti obligé de le remettre. N'empêche que cette entrée-là est pour moi celle qui change le plus le visage du match par rapport aux autres et qui fait le plus progresser Dortmund.
Ouais, il a été pas mal. Il a 2-3 frappes à l'entrée de la surface qui sont intéressantes. Il arrive à se mettre en mouvement, à faire avancer rapidement Dortmund. Il a mis du rythme dans le jeu. Il a trouvé des joueurs lancés sur les côtés. Il a été en effet plus présent que Hazard sur le match aller, match retour et pas très influent finalement. J'étais surpris de revoir Götze aussi, dont j'avais oublié l'existence. Là, il est rentré en fin de match. Mais Brandt a été plutôt bon parce qu'il est rentré dans un match où tu avais l'impression que le rythme ne viendrait jamais. Et lui, il a mis un petit peu. Alors le PSG a plutôt bien défendu l'axe de la surface parce que souvent ses tirs ont été déviés ou bloqués. Mais entre ça et sa patte, tu dis en effet que peut-être qu'avec 10-15 minutes de plus et un peu plus d'urgence qui aurait pu arriver plus tôt, peut-être avec des entrées à la 55e, 60e, Dortmund aurait eu les grosses occasions pour revenir à 2-1. Je ne sais pas s'ils ont vraiment une énorme occasion pour revenir à 2-1. J'essaye de me souvenir là. Ils ont des situations où le ballon est proche de la surface. Mais est-ce qu'il y a vraiment une occasion où tu te dis « Ah là là, le PSG est passé pas loin d'aller en prolongation ?»
Non, c'est juste... T'as juste un tir de Brandt, mais c'est que de l'extérieur de la surface, quoi. Il n'y a vraiment pas de tir à l'intérieur. Je le disais tout à l'heure, le seul tir de l'intérieur de la surface de Dortmund en deuxième mi-temps, c'est une tête de Zagadou. Sur un coup de pied arrêté. Donc voilà, non, il n'y avait rien. Ils n'ont pas réussi, ils n'avaient pas de pénétration, ils ont très peu réussi à rentrer dans la surface. Il me semble qu'ils réussissent, je ne sais pas, 3-4 passes maxi vers la surface parisienne.
À noter que Dortmund a encore pris un but sur corner. Alors j'ai cherché la stat à droite à gauche, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ça doit être 9 buts sur coup de pied arrêté pris cette saison, toute compétition confondue, 9 buts sur corner. Et l'an dernier, je crois qu'il y en a eu une bonne dizaine. En tout cas, c'était parmi les grosses équipes, c'était l'équipe qui défendait le moins bien sur corner. Là, ça continue. C'est tout bête, mais là, on arrive quand même sur un moment où la stat, à mon avis, n'est plus que anecdotique. Et ça devient vraiment une tendance de fond et ça explique encore un peu moins, je trouve, le fait d'avoir un plan assez réactif qui te fait attendre, parce que limite que l'Atlético fasse ça, pourquoi pas, parce que même s'ils en prennent plus cette saison, ils ont quand même une habitude de bien gérer ces phases, coup de pied arrêté défensif, etc. Autant Dortmund a beaucoup de mal, donc du coup mettre l'adversaire en position d'avoir des corners, J'ai trouvé ça assez étonnant parce que tu sais que tu es friable là-dessus. Effectivement, le but encaissé est assez ridicule. Florent, est-ce que tu as un dernier match, non pas un dernier match, mais un dernier mot à dire sur ce match, sur, je sais pas, sur le bilan de Dortmund, sur une individualité qu'on n'a pas évoquée ou sur la suite de l'éventuelle compétition pour le Paris Saint-Germain?
Non, pas grand-chose à rajouter. Après, le seul truc qu'on peut dire, c'est que par rapport au match aller et au déclat des Parisiens, qui étaient très sereins après le match aller, à dire ouais, bon, bah, on verra au match retour, on n'a qu'un but de retard, etc. Bon, bah, je sais pas s'ils étaient au courant ou s'ils savaient que Dortmund allait faire ce genre de match au retour, mais bon, ils ont réussi leur. Ils ont réussi leur remontée, ça s'est très bien passé. Maintenant, c'est sûr que j'attends avec impatience leur possible ou hypothétique, on va dire, adversaire, parce que s'ils tombent par exemple sur du Leipzig, du Bayern ou même de l'Atalanta, qui sont des équipes qualifiées ou quasi qualifiées pour le Bayern, je me dis que en termes d'intensité, il faudra faire plus que ce qui a été fait sur ce match retour, évidemment.
À noter, un, que ça nous ramène quand même à tous les ratés du Borussia à l'aller, puisque le résultat était quand même, je trouve, assez bien payé sur Paris, parce que Dortmund avait raté beaucoup d'occasions. Alors après, peut-être que si Dortmund les avait mises, Paris aurait recommencé à attaquer, et du coup, tu aurais eu aussi un but d'écart, mais un plus gros total de buts, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, Dortmund, au-delà de cette rencontre retour, peut avoir des regrets sur le match aller de n'avoir tourné qu'avec un seul but d'avance. Et puis aussi dire quand même que les Parisiens ont beaucoup célébré, beaucoup chambré. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient une certaine sérénité après le match aller. Malgré tout, tu as quand même un ouf de soulagement qui fait que tu sens quand même que c'était pas. Ils se donnaient peut-être l'impression d'être sur deux, mais ils l'étaient pas complètement, parce que quand tu expédies les affaires courantes, bon, tu peux aller te célébrer avec les supporters ou autre, mais t'es pas en pleurs comme Neymar au coup de sifflet final. On sent Flo que je sais pas si c'est un blocage psychologique d'avoir été sorti en huitième de finale les dernières saisons ou autre, mais il y a quand même une forme de libération que t'as pas dans des équipes type Bayern, Real, qui ont l'habitude de passer ces tours.
Bah c'est sûr qu'ils ont. La dernière fois qu'on a vu les Parisiens fêter un truc aussi fort, c'était quand Marquinhos et Thiago Silva avaient concédé un corner contre Liverpool. Ou je sais plus, là, quand. C'est Marquinhos qui contre un tir de Salah, je crois, il me semble, un truc comme ça. Mais c'est vrai que, ouais, le genre de décharge émotionnelle que les Parisiens peuvent avoir, c'est pas forcément à ce niveau de compétition qu'on l'attend. Mais bon, ça faisait 3 ans, en effet, qu'ils n'avaient pas passé, voire même plus. Qu'ils n'avaient pas passé ce stade de la compétition, ils étaient mal embarqués après l'aller, ils avaient fait un très mauvais match. Bon, ben là, au retour, ils ont fait leur match. Ils ont. Là, je vois Tourelle qui a dit on a joué comme une équipe. C'est vrai que ça leur arrivait pas tout le temps. Donc voilà, pour eux, c'est une soirée quand même très satisfaisante. Maintenant, bon, on verra si ça leur servira à quelque chose par la suite, puisque on verra déjà s'il y a des quarts de finale, quoi.
Alors que je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le même temps, le match entre le Jazz et le Thunder en NBA a été annulé. En raison de circonstances imprévues, le match est annulé. Et le speaker a dit, vous êtes tous en sécurité. Rudy Gobert et Emmanuel Mudiay sont questionable à cause d'une maladie qui n'est pas précisée.
Bonne ambiance.
C'est bonne ambiance. Donc, il y a un mec qui précise que lors de sa dernière zone mixte, en gros, Rudy Gobert avait dit en rigolant, oh, c'est bon, ça va, il avait touché tous les micros des journalistes avec son doigt.
Alors, ça me rappelle une soirée que j'avais faite après l'enduro du Touquet, où j'avais bu tous les restants de verre qui étaient sur le comptoir. Il était 5-6 heures du matin, il y avait beaucoup de verre. Alors, tous n'étaient pas très remplis. Et j'ai littéralement failli mourir dans mon sommeil le lendemain, puisque j'ai vécu une nuit assez difficile. Donc attention aux déclarations qu'on peut faire
Il y a
sur le coup
aussi
de l'émotion.
des images qui circulent là, si vous pouvez aller voir en même temps la timeline de
Enfin, je
Network.
veux dire, en même temps, on n'est pas en direct à la télévision,
Oui,
Raphaël,
non, mais
c'est un podcast.
pour nous vous deux, je précise, pour Flo et Christophe, ils sont en train de nettoyer les sièges où se sont assis les joueurs du Jazz. Donc, je pense que la saison NBA est bien partie aussi.
J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles d'ici le moment où on mettra en ligne. Pas que les gens écoutent ça à 9 h du matin et qu'on apprenne que Rudy Gobert est à l'hôpital, ça sera un peu dommage. Donc Raphaël, toi qui as mis une bonne ambiance dans cet épisode, on va te lancer sur un résultat que tu avais annoncé mais qui t'a fait très mal au cœur,
Oui.
puisque ça fait des mois que tu annonces que le karma va rattraper Liverpool qui se fera sortir tristement en Ligue des Champions. Je sais pas si tu avais annoncé directement en huitième ou qu'en tout cas ça arrivera assez tôt.
En tout cas, quand j'ai vu après le tirage Atlético, j'ai dit c'est là, je me rappelle.
Et effectivement, c'est là. Mais on est typiquement dans une phrase que j'aime bien dire, à savoir que le résultat ment, en tout cas, qui ne reflète absolument pas le rapport de force entre les deux équipes. Et je dis ça alors que l'élimination de Dortmund ne me touche pas particulièrement. Donc, c'est pas du tout un aspect fan que toi, tu pourrais avoir. Dis-nous tout. Nous, on a vu, enfin, moi, j'ai vu d'un œil le match aussi, mais Florent n'a vu que la prolongation avec ses deux yeux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur notamment les 90 premières minutes, puisque les 30 suivantes, nous les avons tous suivies?
Bah alors le match aller avait été dramatique pour Liverpool, qui n'avait été quasiment inoffensif pendant 90 minutes. Là, pour le coup, ils ont eu énormément d'occasions. Je laisse Florent ou toi, Christophe, chercher la stat de tir. En attendant, il me semble que Julien a posté un tweet où il disait que ça finissait à 3,2 XG contre 1,1 ou quelque chose comme ça.
Et 34-10 en termes de tir.
Voilà.
34-10. Et attends juste, j'en ai quelques autres. J'ai 72 dégagements de l'Atlético. Et le dernier truc rigolo, c'est... Non, je l'ai plus là. Il y a 9 arrêts pour Yann Oblak, ce qui est pas mal.
Voilà. Donc, j'ai peur que dans la légende de Simeone, ce soit écrit dans quelques années comme la victoire folle de Simeone qui va éliminer Liverpool avec un plan de jeu taillé sur mesure. Non, pas du tout. Là, pour le coup, c'est un peu comme le match Bayern-Atlético d'il y a quelques saisons, quand le Bayern de Guardiola fait tout bien, mais Müller rate un penalty et derrière, les événements contraires font que l'Atlético se qualifie. Là, pour le coup, il n'y a pas de penalty raté du côté de Liverpool, mais il y a Adrian qui, alors que Liverpool mène 2-0 en prolongation, rate un dégagement de manière complètement grotesque alors qu'il est moyennement pressé et qui relance complètement la rencontre. Marcos Llorente qui fait une entrée légendaire. Mais sur les 90 premières minutes et même sur les 97 premières minutes, du coup, jusqu'au 2-1, Liverpool est largement au-dessus. Liverpool est peu embêté par l'Atlético. Ça se crée beaucoup d'occasions. Alors ça centre beaucoup, c'est un peu parfois répétitif. Mais tu as quand même beaucoup de tension dans la surface de l'Atlético. Et très peu, et de moins en moins au fil du match, de capacité à ressortir et à les contre-attaquer. Et c'est ce qu'a dit Klopp derrière en conférence de presse, il était un peu énervé. Il a dit, ils n'ont pas eu de contre-attaque, c'est, voilà, on leur a donné le match, bon, bah, ça arrive, on est éliminé. Bon, voilà. Et il a dit aussi, avec les joueurs qu'ils ont, l'Atletico, ils pourraient jouer correctement au football. Bon, ça c'est un autre
petit peu de sel.
Oui, un petit peu de seum même. C'est un autre débat sur le style de l'Atletico, mais c'est pas du tout un match où la méthode Atlético et la capacité à bien défendre a été vue, parce que c'est pas grâce à ça qu'ils passent. Autant le match aller avait été très impressionnant dans ce domaine-là, autant le match retour, ils sont complètement à la rue sur pas mal de situations, et ils ont de la chance que Mané rate une bicyclette, ils ont beaucoup de chance sur pas mal de séquences de la rencontre, et puis après il y a le quart d'heure Adrian, et je vais un peu là m'énerver, mais sur le premier but, bon, je l'ai dit, relance catastrophique, plutôt que se replacer au centre de son but, il s'excuse derrière Marcos Llorente, marque dans le petit filet. Bravo. Deuxième but. Alors, encore quelque part, mais qui m'énerve encore plus que le premier, puisque c'est une contre-attaque de l'Atlético. Bon, Van Dijk défend un peu trop en reculant, mais ça, c'est dans ses habitudes. Derrière, Gomez et Henderson ferment la langue de tir de Marcos Llorente vers le petit filet droit. Donc, de petit filet droit d'Adrien, donc tu te dis Adrien va anticiper l'autre côté, va se déplacer un peu, parce que le seul endroit que peut viser le Marcos Llorente, c'est le petit filet gauche. Non, il reste au milieu de son but, derrière petit filet gauche, il est surpris, ça fait but, bon bah, tant pis pour toi. Et puis troisième but, alors bon, le match est déjà plié, hein, donc c'est moins énervant, mais quand même pour l'ensemble de sa performance. Troisième but, contre-attaque de Morata, Adrien sort de son but, t'as l'impression qu'il veut fermer l'angle, il a l'impression de fermer l'angle, et il ferme pas du tout l'angle, et Morata met un plat du pied le long du poteau qui rentre tranquillement. Donc clairement, ce que je disais quand je pleurais avant le début de l'enregistrement, il a là atteint son seuil de compétence, et je pense que si c'est Alisson dans les buts à la place, ça fait 2-0 ou 3-0 pour Liverpool, et là on sera en train de parler des grosses limites de l'Atlético et de du manque de progression de l'Atlético au fil des ans, malgré le même coach. Et là, ils sont en quart de finale. Et bon, quand est-ce qu'ils vont le jouer, on verra. Mais c'est une qualification aussi lunaire que celle contre le Bayern, sauf qu'à l'époque, l'Atlético était capable de après se remettre à l'endroit et rivaliser avec d'autres équipes. Là, cette année, ils ont quand même pas souvent rivalisé avec les meilleures équipes.
Ce qui est rigolo, Florent, c'est que, enfin, rigolo, je sais pas, mais c'est que Adrian coûte indirectement un but parce que voilà, c'est pas non plus une passe vers un défenseur intercepté pour marquer dans le but vide. Il faut quand même que l'Atlético sache exploiter la situation derrière, mais n'empêche que Adrian rate une relance au sol alors que tu joues face à un adversaire qui, même mené, ne va pas aller forcément chercher à presser. Que l'adversaire, même si tu lui rends la balle, aura du mal à construire, aura du mal à aller dans ton camp. Au final, il n'y a absolument aucun besoin de dégager au sol. Alors tu vas me dire, le dégagement n'est pas très difficile, donc on ne va pas non plus s'arrêter de faire des passes si on veut absolument limiter tout risque. N'empêche que c'est un peu bête d'offrir un but sur une situation alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir un pressing à casser au sol et que tu peux balancer la balle loin devant. A priori, tu la récupéreras assez vite.
Ouais, c'est vrai. J'ai
Mais
pas de
est-ce qu'il
relance
essaye
après
pas
ça,
de
mais c'est vrai.
jouer? Est-ce qu'il essaye pas de jouer en l'air en fait? Moi je
Non,
pense
non.
qu'il essaye de dégager loin. Hein.
Ah, je suis pas sûr, hein. Je pense qu'il y a pas, y a pas un joueur de Liverpool dans cette zone-là qui essaie de
Bah,
toucher sur
il y en a,
l'action.
mais moi j'ai pas l'impression dans son geste, il essaye de trouver quelqu'un au sol avec une en assurant une passe. J'ai l'impression qu'il essaye de passer en dessous du ballon, mais qu'il n'y arrive pas.
Faut
Et
que je la
c'est pour ça.
revoie, je suis pas sûr de ça.
Enfin,
Je
en
sais
tout cas,
pas.
il se foire complètement et il met tellement de temps à se réajuster dans son but parce que Llorente est quand même loin au moment où il frappe. Hein. Il est même pas dans la surface. Alors, elle est bien placée, mais Adrian est complètement sur les talons, pas du tout bien placé dans le but. Et ça va être la même sur le deuxième. Donc, bravo à Llorente qui, du coup, nous a montré qu'il avait une belle frappe de loin. Mais qui fait un peu du coup, un match comme Coquet, le joueur de Séville en Ligue Europa 2017 contre Liverpool.
Avec son doublé en finale en tant que latéral
Ouais.
droit.
Qui en plus d'ailleurs a dû le lendemain sa carrière était terminée,
Oui, c'est vrai, il a signé à Schalke qui s'est fait les croisés.
mais voilà ça, donc c'est moi je suis un peu tendu par cette situation, mais voilà, c'est comme je l'avais annoncé, retour de karma de Liverpool qui avait quand même été très heureux sur pas mal de matchs cette saison. Là j'espère juste qu'ils vont pouvoir disputer les deux prochains matchs, les gagner, parce que on n'est pas à l'abri que la première ligue je sais pas, s'arrête cette saison ou ne soit pas considéré comme une saison complète, et là ce serait vraiment clairement la fin de ma vie.
Bon, Florent, t'avais décidé de me laisser dans la panade sans vraiment répondre, alors que j'ai choisi une action d'un moment où tu avais vu le match. Du coup, je ne vais pas te poser de questions spécifiques. Qu'est-ce que tu as pensé des 30 minutes de prolongation que tu as vues?
Bof, c'était j'ai pas grand chose à raconter parce que au final c'était vraiment à sens unique pour les Reds. J'ai trouvé un Salah très actif, mais très brouillon aussi. Alors bon, c'est vrai qu'il y avait du monde
Comme
devant lui.
d'hab.
Mais du coup, ouais, ben, justement, Raphaël, je suis allé voir sur ses stats. Et il termine le match quand même avec 19 ballons perdus. Sachant que le deuxième de Liverpool avec le plus de ballons perdus, c'est Firmino qui en a perdu 7.
Et qui n'a pas été spécialement bon, Firmino.
Mais ouais, Salah, 19 ballons perdus, 7 tirs. Je sais pas ce que t'as pensé de son match, toi. Mais je te repasse la balle comme ça.
Je souffle pour résumer mon
D'accord.
sentiment. Non, en plus, il fait des différences où il arrive à s'ouvrir des angles de frappe, mais j'ai l'impression qu'il ne sait plus frapper. Ça fait un an et demi que dès qu'il est à plus de 12 mètres du but, tous les ballons partent au-dessus. Parce qu'il a le corps en arrière, parce qu'il n'est pas équilibré, parce que le pied d'appui est trop loin du ballon. C'est assez dramatique de voir où il en est en termes de technique de frappe.
Tu veux dire qu'il faudrait qu'il puisse tirer avec ses gros bras maintenant, en fait?
Bah, j'ai l'impression quoi, il est un peu. Il veut trop enclencher les mécanismes de la terreur et du coup il y a un peu moins de finesse dans ce qu'il fait. Mais c'est dommage parce qu'il arrive toujours à faire des différences, mais il perd en effet beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons sur des prises de balles ratées, sur un manque de mobilité, d'agilité. Il est devenu vraiment rigide. C'est ce que ça fait un an et demi, 2 ans que je le répète, et ça ne change pas, ça a même tendance à s'aggraver, donc il arrive toujours à être décisif malgré ça. Mais là, pour le coup, sur le match, il montre toutes ses limites. T'avais un Mané qui revenait de blessure, qui n'a pas été exceptionnel. Firmino qui a été bien pris par Felipe et Savic qui sont sortis sur ses décrochages, qui l'ont empêché d'être tranquille dans la réception du ballon. Ceux qui ont été bons côté Liverpool, c'est plus les relayeurs, Wijnaldum et Oxlade-Chamberlain, qui ont été vraiment bons. Robertson côté gauche a été pas mal. Arnold a arrosé, mais finalement, il est aussi impliqué sur pas mal de bonnes situations pour Liverpool. Après, côté Atlético, va falloir qu'on parle du monstre Thomas Partey, Christophe, qui, je pense,
Oui.
cette saison est un des 4-5 meilleurs milieux en Europe, parce qu'il est complètement injouable. Hein. C'était le seul de l'Atlético où tu te disais, peu importe, il y a 2, 3, 4 mecs au pressing, non seulement il va s'en sortir, il va trouver une passe vers l'avant, il va se redéplacer, il va rejouer, il a une progression. C'est absurde. C'est Bruno Guimaraes avec le corps de Michael Essien. Ça n'a aucun sens ce qu'il fait.
Ce qui est absurde aussi, c'est qu'il fait des choses qu'on aurait imaginé Koke être capable de faire. Sauf que Koke a le même niveau depuis des années, voire régresse un petit peu parce qu'il a plus un Gabi autour de lui, il a peut-être plus là un Griezmann à servir devant pour servir d'appui. Alors que là, il y a plusieurs fois où Thomas, je le vois devant sa surface en train de récupérer. Faut dire qu'il y a quand même un moment, notamment sur les 20 dernières minutes, où dès que l'Atlético avait la balle, ça balançait devant, mais même s'il y avait personne devant, bon, ça nous fera gagner tout de suite 30 secondes, c'était assez dramatique. Franchement, on aurait dit, alors tu peux louer le cœur, etc., mais on aurait quand même dit une N3 face à une Ligue 1 qui espère tenir le nul en Coupe de France pour aller jusqu'en prolongation et pourquoi pas aller jusqu'au tir au but. Alors que Thomas, lui, gardait la balle. Il y avait plusieurs personnes qui allaient sur lui. Il arrivait à combiner plus ou moins à la fois les espèces de petits doubles contacts, petits gestes techniques pour sortir un petit peu de la densité. Ensuite, il levait enfin la tête. Enfin, il levait la tête, voilà, il avait enfin l'occasion de lever la tête. Et puis là, il allait pousser sa balle. Et puis il y a des gens qui essayaient de lui prendre. Et puis il allait résister au duel à l'épaule. Et puis il continuait. Et il faisait comme ça, 20, 30 mètres. Et puis ensuite, il allait servir soit Félix, soit l'ailier qui était Saoul, je sais pas, enfin, quelqu'un qui était parti faire l'appel. Bon, généralement, l'action n'était pas du tout bien jouée. Mais en fait, c'était le seul qui, non seulement avait la personnalité pour faire ça, parce que les autres n'avaient pas forcément l'envie d'assumer ces risques-là devant leur surface sous la pression adverse, et qui en plus était capable de le faire. Et j'ai alors il y a toute une partie du match que j'ai regardé d'un œil, mais j'ai pas souvent vu Partey faire des erreurs qui seraient coûteuses pour son équipe. Alors que si tu compares dans d'autres matchs, mon autre œil voyait Zagadou sans être pressé faire des passes à l'adversaire. Partey, c'était vraiment l'inverse.
Et c'est celui qui fait le plus, qui réussit le plus de tacles et le plus d'interceptions, en plus, côté Atlético. Donc,
Ouais. Mais
en
c'est
tout cas, c'est le joueur qui a le plus évolué parmi tous ceux qui faisaient des entrées de 3 minutes pendant des années, où souvent c'est des joueurs qui derrière vont faire des carrières beaucoup plus bas. Lui, c'est le cas rare du mec qui fait ça et qui après s'installe dans l'équipe et limite meilleur que les mecs qui sont là depuis des années.
Mais c'est vrai que Simeone avait dit un jour, oui, quand je le faisais rentrer sur des petits bouts de match et que je le mettais titulaire face aux équipes de bas de tableau, en fait, c'est parce que je savais qu'il avait un potentiel et que je voulais le faire progresser et que c'était le meilleur moyen de le faire progresser. En gros, quand il t'en parle, t'as vraiment l'impression d'un formateur qui fait jouer, je sais pas, un Busquets qui serait pas forcément adapté en U17 ou en U15 parce qu'il va moins vite que les autres, mais qui finira par faire la différence parce que son QI foot, etc. Sauf que là, c'est au niveau pro avec une équipe qui visait et qui a toujours visé des trophées sur les dernières années. Donc c'est rigolo parce que c'est un discours que t'as pas forcément, le côté entraîneur de grand club qui dit oui, je le faisais jouer, mais je savais que à terme, il serait vraiment bon. Là, pour le
Tiens,
coup,
bah,
il l'est.
toi Flo qui as vu les 30 dernières minutes, à ton avis quel est le pourcentage de passes réussies de l'Atlético?
Alors je sais que sur le match ils sont à 59 je crois.
Ouais, 58, bah, c'est celui-là que je te demandais. Mais sur les 30 dernières, je ne l'ai pas, hein. Je te demandais
Ah,
sur
d'accord.
l'ensemble du match. Mais je
Mais le
pense que les
problème c'est que
30
tu poses des
dernières, on
questions
doit
stats à Florent qui a toutes les stats sous les yeux. Donc...
Je pense que les 30 dernières, on doit être sur du 40 ou 30.
Bah attends,
Je
je
sais.
peux te trouver ça assez
Parce que vu
rapidement.
que c'est que des dégagements, je sais même pas s'ils les considèrent comme des passes en fait. D'ailleurs, ça doit être des clearances ou un truc, quelque chose comme
Sur
ça.
les 30 dernières, on est à 61%.
Ah! Après, il y a aussi la fin de match où Liverpool est déjà un peu cuit et il y a quelques séquences de possession à la fin où ils gagnent du temps. Donc c'est bon.
Après, 61, c'était dans les arrêts de jeu, c'était à la 90e. Si on prend que la prolongation, c'est 56%.
D'accord. Ok.
Mais c'est vrai que, par contre, ce que tu disais, c'est que sur la prolongation, quand même, une fois que Llorente met le premier, tu sens quand même un basculement en termes de momentum. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout vu le siège avec énormément d'occasions pour Liverpool, puisque pendant la prolongation, on termine à 4 tirs à 3 en faveur de Liverpool et que des
Ouais.
tirs de loin pour les Reds. Ils n'ont pas vraiment eu de balles pour revenir à. Bah déjà pour reprendre l'avantage pour la qualif, c'est-à-dire mettre le troisième. Et c'est vrai que quand ils prennent le 2-2 de Llorente en tout début de deuxième période, du coup.
Ouais.
De prolongation, là après il n'y a plus rien quoi. Derrière,
Ah non,
tu sens
ils
que c'est
sont
la
morts,
fin.
ouais. Ouais, et puis même dans les attitudes sur des passes ratées, les mecs, ils ont plus rien dans les cannes. Bon, les stats quand même, 34 tirs à 10, 71% de possession à 29, 84% de passes réussies à 59, 22 dribbles à 5, 16 corners à 3. Et
Ah, c'est pas énorme.
finalement, Adrian à Oblak. Voilà, c'est surtout ça la stat du match.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'entrée de Marcos Llorente à la place de Diego Costa? pour les gens qui n'ont pas vu le match 1, qu'est-ce qu'a fait Llorente? Et deuxièmement, en quoi ce changement a-t-il modifié la structure de l'Atlético? Parce que tu fais rentrer une espèce de 6-8, même si on a vu là sur la fin de match qu'il peut se retrouver en position de 10 voire de 9,5 par séquence à la place d'un numéro 9. Comment est-ce que l'Atlético s'est réorganisé après ça et qu'est-ce que lui a pu apporter au-delà de ses buts?
Ils sont restés dans le même système, sauf que Correa, qui était sur le côté, est passé dans l'axe avec Félix, et que Llorente est entré côté droit et à un moment passé côté gauche et inversé avec Coquet. Mais ça n'a pas grandement modifié la structure de l'Atlético. Après, vu ce qu'apportait Costa, c'est pas une mauvaise idée non plus de faire passer Correa plus haut et de mettre 1 million en plus pour défendre. Bon, après, je pense pas que Siméné s'attendait à ce que ce soit lui l'homme impliqué sur cette remontée fantastique qu'ils ont sur la prolongation. Mais bon, Diego Costa d'ailleurs qui sort en tapant dans des bouteilles en étant ultra énervé, comme si le
Diego
mec avait...
Costa, quoi.
Ouais, mais comme si le mec avait fait un super match et qu'on était en 2015 et que c'était le meilleur joueur de l'Atlético, mais là ça l'était pas du tout, donc c'était beaucoup moins crédible. D'ailleurs, Siméné l'a même pas calculé.
En même temps, tu le mets là limite pour gagner des ballons aériens, faire remonter le bloc, et au final, tu étais mieux avec Correa et Félix qui partaient à toute vitesse. Et en gros, tu balances devant et tu joues les transitions, ou alors tu les mets dans les pieds de Correa qui va les provoquer. Parce que là, Diego Costa, ça servait à rien. Enfin, tu m'aurais mis. J'ai, je pense, à peu près les mêmes mensurations que lui et j'aurais perdu autant de duels, quoi.
Non, par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que on parlait de la progression de Partey, c'est que je pensais pas qu'un jour Savic serait le titulaire, le pilier de la défense centrale de l'Atlético, et il l'est depuis maintenant quelques temps. Alors pas de l'Atlético le plus grand qui est connu et qui est construit Simeone, mais en tout cas il est parmi les tauliers. Felipe a été bon aussi, Renan Lodi a été encore pas mal. Il y a quand même quelques joueurs qui commencent à s'installer dans l'équipe. Alors que depuis quelques années, Simeone avait vraiment du mal à intégrer des recrues et à faire en sorte qu'elles soient performantes dans l'équipe. Là, il y en a quelques-unes qui le sont, mais par contre, c'est devant que le manque d'inspiration est toujours présent. Et puis au milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup de variété dans l'animation. En tout cas, sur ces oppositions-là, c'est toujours le même Atlético, qui du coup devient un peu lassant tout de même.
Florent, toi, est-ce que tu es lassé par l'Atlético de tout ce que t'en décrit Raphaël? Est-ce que tu peux avoir comme souvenir de cette équipe-là, vraiment face aux très gros adversaires, notamment le Bayern qui réussissent à l'étouffer, de voir l'Atlético en quart de finale? Est-ce que ça te fait quand même un peu plaisir parce qu'il y aura une forme de variété? Ou bon, c'est quand même un peu un hasard et c'est bien gentil, mais il y aurait pu, enfin, Simone aurait pu essayer de faire passer un câble dans le jeu à cette équipe.
Non, oui, au moins il y aura une variété et en plus l'avantage des quarts de finale c'est qu'il y en a deux par soir donc tu pourras toujours regarder l'autre match.
C'est concis. Merci, Florent. Raphaël, est-ce que tu penses que le plan de l'Atlético serait viable sans Oblak? Est-ce que,
Non,
enfin,
non,
je vais
non.
formuler différemment. Est-ce que
Avec
s'il n'y a pas
Adrien,
Oblak, tu penses que Simone joue différemment?
Non, je pense que Siméné jouera toujours de la même façon.
Mais s'il n'y a pas Oblak, alors sans forcément aller jusqu'à Adrian, mais si c'est un gardien, allez, bon, non, Kepa est genre à 60% d'arrêt, donc il est trop mauvais pour ça. Je cherche un gardien moyen, genre un Strakosha du côté de Lazio qui est un bon gardien, qui est
Qui fait des
pas.
belles saisons tout de même. Non, mais
Non, mais
il.
voilà, un bon gardien qui serait du niveau de l'Atlético, mais qui est pas au niveau d'Oblak, qui est le meilleur ou le deuxième meilleur gardien du monde depuis des années. Qu'est-ce qui peut se passer pour cette équipe? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, elle défend, mais elle défend pas spécialement bien, en fait. Ça m'a rappelé un petit peu par certains moments. D'ailleurs, c'est Rory Smith du Times qui tweetait ça. Ça lui rappelait vraiment l'Inter 2011. C'est-à-dire que ça a tenu contre le. L'Inter avait tenu contre le Barça, mais ça avait pas spécialement bien défendu. C'est juste que le Barça avait raté beaucoup.
Ouais,
Là, ça
Inter
m'a un peu rappelé
2010.
ça, quoi.
Ouais, 2010. Bah oui, c'est vrai qu'ils défendent plus qu'ils ne défendent bien. Et c'est souvent la différence entre les bons matchs de l'Atlético et les mauvais matchs de l'Atlético. Au match aller, ils avaient défendu, mais dans des bonnes zones et concédé très peu. Là, ils ont juste mis du monde dans la surface et laissé passer l'orage, mais plus miraculeusement qu'en vraiment en étant très bon. Parce que quand tu concèdes 34 tirs, il y a quand même enfin, il n'y a aucun plan qui peut justifier le fait de concéder 34 tirs. Tu vas pas me dire que dans les 34 tirs, t'as fait en sorte. C'est pas comme au basket où tu dis, ouais, vas-y, on va concéder des mauvais tirs. On va les laisser shooter mid-range et on sait que ça, on va pas les prendre. Là, tu concèdes 34 tirs, ça peut pas être un bon match sur le plan défensif. T'es trop acculé sur ton but, t'arrives pas à ressortir. Je sais pas d'ailleurs comment ils arrivent à avoir 10 tirs. Sans doute sur les la fin de match où il y a un peu plus d'opportunités. Mais
ouais, j'ai déjà souvenir de deux tirs écrasés de João Félix en fin de première période, dans
ouais.
une espèce de militant fort de l'Atlético où je m'énerve parce que João Félix a une frappe d'anémique sur la
Après,
situation alors qu'il avait un mètre.
après, tu vois, Flo dit ouais, c'est bien, il y aura de la variété. Enfin, s'ils éliminent Leipzig ou l'Atalanta, moi ça me fera chier. Hein. Parce que si l'Atlético se renouvelle pas, il y a d'autres équipes qui débarquent un peu sur ce niveau-là de la Ligue des Champions. J'ai plus envie de voir ces collectifs-là, ces entraîneurs-là et ces joueurs-là, que voir la sixième saison ou septième saison du même scénario de l'Atlético. Commence à être un petit peu fatigant, surtout que chaque saison, tu as une espèce de début de saison où tu entends Simeone dire on va changer ça, ou il y a une espèce de source qui dit ouais, il va peut-être changer de système, puis ils vont pratiquer un football un peu plus expansif. Il n'y a rien qui change, et en plus, les résultats sont moins bons qu'avant. Donc, je comprends. Enfin, peut-être que s'il change de club, il y aura un petit peu de modification, mais on disait la même chose de Mourinho, et finalement, le mec revient toujours à ses réflexes habituels. Donc, je t'avoue que je suis un peu fatigué de ça, alors que 2014 et 2016, j'étais très pro-Atlético au départ, parce que je trouvais que c'était un collectif qui avait été très bien construit et qui, par rapport à ce que c'était avant que Simeone arrive, était assez impressionnant. Il y avait quand même quelques séquences sympas. Là, sur ce genre de match, tu trouves pas les quelques séquences qui te donnaient envie de voir jouer l'Atlético.
Alors, sur les matchs de la veille, je suis le seul à avoir vu les 180 minutes. Je pense que personne n'a vu Valence-Atalanta. Florent a vu un peu superficiellement Leipzig-Tottenham. Toi, tu as regardé quand même attentivement jusqu'au 2-0. Alors après, tu n'as pas raté grand-chose puisque tu aurais vu Tottenham trottiner. Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant jusqu'au 2-0, Raphaël?
J'ai vu un Tottenham toujours aussi perdu face à Leipzig, et un Leipzig qui continue à construire très bien, à faire circuler, à trouver des joueurs à l'intérieur, un Upamecano dominant, des passes verticales, la tranquillité avec le ballon, une capacité à agrandir le terrain assez facilement, à les tirer pour trouver des joueurs entre les lignes, pour des appuis soutiens, pour trouver Sabitzer face au jeu qui a été décisif deux fois. Non, j'ai vu le même Leipzig qu'à l'aller, avec plus de réussite en début de match, ce qui fait que le huitième de finale est très vite plié. Et puis après, j'ai coupé à 2-0 et je me suis fait un fait d'entrée l'accusé. Donc là-dessus, j'aurais pas plus de trucs à te dire. J'étais parti en plus un moment pour regarder un peu l'Atalanta, et puis après, j'ai vu qu'il y avait eu un but. Je crois que le premier but vient de l'Atalanta, il me semble.
Oui, c'est au bout d'une minute, il y a un penalty,
voilà.
Parce que Diakabi ne sait pas défendre.
Donc je me suis dit, il faut que Valence à ce moment-là marque 5 buts. Pour passer, 4 pour aller en prolongation. Je me suis dit, bon, s'il se passe un truc incroyable, je regarderai sur Wildcout ou en rediff, mais sinon je vais me poser. Et puis il faut reconnaître, je sais pas pour vous, mais que le fait qu'on ne sait pas si les compétitions vont aller au bout et qu'il n'y ait plus personne dans les stades, notamment là sur Valence-Atalanta, moi, m'éloigne un peu quand même de ces compétitions-là et de l'envie de suivre. Là, tu vois, si la première ligue, le reste de la première ligue se joue à huis clos, je pense qu'un match, deux matchs, ça va le faire. Puis après, faites votre saison, les gars. S'il n'y a personne dans le stade, donc vous regardez de loin à la télé, mais que vous pouvez être en contact avec ni vos supporters, ni la presse, ni qui que ce soit. C'est un peu le Truman Show. Le public est loin, loin, loin. Donc je sais pas trop quoi penser de cette fin de saison. Que ça s'arrête ou pas, il faudrait que ce soit clair et vite. Parce que si c'est juste 3 matchs à huis clos, puis après on arrête complètement parce qu'on se rend compte qu'il y a déjà 20 000 mecs qui ont le coronavirus. Là, c'est Rougani qui l'a à la Juve, je crois.
Mmh. Ouais, c'est
donc,
ça.
Qui a croisé les mecs de Lyon, qui a croisé les mecs de l'Inter récemment. Enfin, si l'Inter après joue en Europa League, ils vont le filer à d'autres mecs. Donc, tu sais pas si tu vas, tu vois, c'est comme une partie du MPG où tu fais jamais ton équipe en fait. Tu arrives à la 8e journée, tu fais j'en suis où au classement? Ah bon, ok, je m'en fous. Et là, c'est un peu pareil.
Ouais, bon, je t'avoue que moi je continue à suivre les matchs, mais c'est parce que j'ai un certain professionnalisme et j'ai envie que les auditeurs puissent avoir des analyses
Bien
de qualité.
Sûr,
mais bon, après, je
normal,
comprends que
tu es la machine indestructible, c'est pas un virus qui va te démotiver.
Non, non, mais je comprends que la jauge ne soit pas la même pour tout le monde. Quel était le fait d'entrer l'accusé que tu as suivi au lieu de regarder les matchs?
Je crois que c'était celui sur Pierre Chanal et les disparus de Mourmelon.
Ah, par contre, ce je crois est un peu décevant. Tu l'as vu hier, ta mémoire.
Non, mais parce qu'en ce moment, il y a un enchaînement de beaucoup de faits d'entrer l'accusé. Récemment, qu'est-ce que j'ai vu d'autre récemment? Il y avait.
C'est pas intéressant.
Non, mais si, il y avait. On s'était refait celui, je crois, de Alain Lamarre, qui était exceptionnel. Je sais pas si vous connaissez l'histoire d'Alain Lamarre.
Tu mets Lamarre aux dames.
Non, rien à voir. Non, c'est
Thomas Lamarre aussi.
C'est un flic qui enquêtait sur une affaire où il cherchait le coupable alors que c'était lui depuis le début. Et personne s'en était rendu compte.
Ah oui, ça me dit quelque chose.
Donc voilà, on a regardé celui sur Émile Louis aussi. Enfin voilà, il y avait
Les classiques.
des patrons du crime game.
Et la team double prénom. Florent, t'as vu quand même des petits bouts, notamment du Werner. Qu'est-ce que t'as envie de dire sur ce match? Soit sur Leipzig, soit sur Tottenham, soit un commentaire général sur l'un des deux entraîneurs, l'une de ces deux équipes.
Bah, j'ai l'impression que Tottenham, sur le début de match, a voulu faire un peu du Leipzig en adoptant un jeu très vertical. Parce que de toute façon, contre Leipzig, si tu commences à jouer latéral et à avancer doucement vers le but adverse pour t'installer, généralement tu prends un pressing et du coup tu te mets à reculer et finalement c'est toi qui subis. Le truc, c'est que dès qu'ils ont voulu faire ces passes verticales, ces transmissions vers Ali, vers Lamela ou vers je ne sais plus qui était le troisième, ou c'était
Lucas.
Lucas, ces trois-là déjà n'arrivaient pas à combiner entre eux et en plus se heurtaient à une défense de Leipzig qui était bien supérieure dans les duels, avec notamment Upamecano qui a été partout. Donc voilà, à partir du moment où Leipzig est sorti de ce premier quart d'heure avec sans vraiment de soucis dans sa surface de réparation et pas vraiment de danger, ils ont commencé à sortir à leur tour. Et en fait, on a vu très vite que Tottenham allait exploser parce que défensivement, c'était n'importe quoi. C'était très désorganisé. On était très loin des standards du Mourinho au final, d'il y a 10 piges maintenant, 10-12 ans, 8-10 ans, pardon, avec quand il était à l'Inter ou ensuite au Real. Donc voilà, oui, il n'y a pas vraiment eu de match ni de suspense. Oui, ça, je peux évoquer ce qu'on disait hier sur Mourinho, sur le fait que son discours avec la génération, on va dire, actuelle de footballeurs, c'est-à-dire la génération qui rentre dans son prime aujourd'hui, donc qui a grandi, qui est entre 92 et 95, 96, voire même plus, puisque Upamecano, je crois que c'est 98. Et peut-être que son discours ne passe pas auprès de cette génération parce que quand cette génération s'est élevée au football de manière un petit peu, enfin sur le plan intellectuel, s'est intéressée à ce football, Mourinho c'était l'anti-modèle, puisque le modèle, quand ils ont commencé à s'intéresser au football, c'était Guardiola, c'était le Barça 2010. Et je pense que tous ces joueurs-là ont un idéal de foot qui tend vers le Barça et qui ne tend pas vers le mec qui voulait détruire ce Barça-là à la tête du Real Madrid et qui avait un style de jeu volontairement opposé, pas forcément sur tous les matchs, mais volontairement opposé quand il affrontait le Barça. Et je me dis que le fait qu'il se soit éveillé intellectuellement au football lorsque Mourinho était devenu déjà l'anti-Guardiola, voire même l'anti-football pour caricaturer, parce que c'est comme ça qu'il était présenté dans certains médias, je me dis qu'aujourd'hui, ça peut expliquer pourquoi ces idées n'infusent plus dans les joueurs de cette génération-là, c'est-à-dire les joueurs nés dans les années 90, pour vraiment arrondir le trait.
Son discours aussi, Flo, où c'est beaucoup de remise en question de ce qu'il a à dispo et rarement de lui. Où là, il a encore dit si j'avais Werner, Schick et je sais pas qui.
Ah,
Non,
c'est même pire que ça.
non,
Il
il
a
a dit
dit.
il est remplaçant de Leipzig, je jouerais titulaire dans mon équipe,
Ouais,
genre
c'est ça.
Poulsen.
Attends, je vais juste.
Alors qu'en plus, c'est complètement faux, je suis sûr que s'il les avait, il jouerait pas. Donc,
Non, mais voilà, je vais te donner les noms. Adams, donc Tyler Adams, l'Américain. Je pense pas qu'il joue. Amadou Haïdara, il peut peut-être jouer dans le double pivot.
Ouais.
Qu'il a été Lo Celso Wing, sauf que bah, si tu mets Ndombele, qu'il a été sur le banc, je pense qu'il joue dans le camp de Leipzig. Donc voilà. Emil Forsberg, je pense que ça joue. Ensuite, on a Yvon Mvogo, le gardien. Youssouf Poulsen, même dans ce contexte-là, je suis pas forcément sûr qu'il joue, peut-être. Dani Olmo, sans doute, mais je suis pas sûr que Mourinho sache l'utiliser. Et Lookman, je ne pense pas qu'il joue. Enfin, c'est loin d'être évident. Et même ceux qui seront en capacité de jouer, tu te dis, est-ce que Mourinho saurait les utiliser? Parce qu'il sait pas utiliser Ndombele. Alors Ndombele ne fait pas d'efforts non plus. Sur le dernier match, il a passé son temps à marcher. On s'est envoyé quelques vidéos entre nous. Là, Julien nous a montré des séquences où je crois qu'il fait zéro course à haute intensité en première mi-temps sur le
Oui,
dernier match de championnat
c'est ça.
et qu'il fait la même pointe de vitesse que Lloris. 1 km heure près, Là-dessus, c'était quand même assez décevant. Je crois que c'est 24 et 23 km heure. Mais c'est vrai que Raphaël, il y a un côté aussi dans son discours. Donc tu me disais parler de la remise en question des joueurs en externe, chose qu'il ne faisait pas forcément à l'époque. Tu as aussi le seul contre tous. Bon, on peut se poser la question quand même de lassitude. Genre, j'imagine très bien Mourinho afficher un article de journal dans les vestiaires et dire: ah, tu vois, délai, machin, la presse, ils te trouvent nul et tout, prouve-leur qu'ils ont tort, nanana, ils te sous-estiment. Et en fait, que Dele Alli sache très bien qu'il faisait ça avec Stankovic, avec Snyder, il y a 10 piges, quoi. Ou avec
Ouais.
Carvalho il y a 15 ans. Et je ne suis pas sûr qu'en fait ça ait le même qu'un magicien puisse encore faire ses tours de magie quand tu sais exactement ce qu'il va faire.
Ouais, c'est ça, oui. En fait, quand tu sais quel est son but, qu'il a déjà fait 10 fois, ouais, il y a moins de nouveautés, il y a moins de. Tu dis moins, ah ouais, il le pense, ou il veut vraiment, il me valorise. Tu dis, ouais, mais tu l'as déjà fait à lui, avec lui, avec lui, avec lui. Donc c'est juste que tu veux me rendre meilleur, mais dans le fond, je suis pas sûr que ta démarche soit très sincère. Et c'est vrai que Mourinho était très bon là-dessus sur le management et comment un peu manipuler les joueurs pour les rendre meilleurs. Je suis pas sûr qu'on soit sur une génération qui réponde bien, ouais, à cette idée d'être manipulé contre ou contre son gré ou pas d'ailleurs, mais d'être un peu machiné pour le pousser à bout et les faire progresser, même le truc du chat et du chien à l'époque avec Benzema. Est-ce qu'aujourd'hui ça passerait encore avec des joueurs? Tu vois, je sais pas, ça avait fonctionné avec Benzema parce que ça l'avait réveillé, il avait pris la place d'Higuain, mais ça avait pris du temps. Donc je suis pas sûr que ça marche très bien. Petit update sur la
Oui, j'allais dire ça, oui.
NBA. Rudy Gobert est positif et la saison est en pause, ça y est. Donc
Quel contre de Rudy Gobert. Là, franchement, c'est son meilleur stop défensif.
le
Là,
mec a
c'est.
contré le titre à venir des Lakers. Bon, en tout cas c'est ça y est. Eux, ils déconnent pas la NBA. Quand il y a un cas de coronavirus, top, ça s'arrête. Là, je sais pas ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions avec Rougani et tout ça.
Ah, du coup, LeBron James avait raison quand il disait qu'il jouerait pas devant des tribunes vides. Genre, oui, non, à huis clos, hors de question, bah oui, effectivement, il ne jouera pas devant des tribunes vides, puisqu'il ne jouera pas du tout. Ce qu'il faut dire quand même sur Tottenham, c'est que là, ils avaient un peu innové tactiquement, puisqu'ils étaient passés à 3 pour se calquer sur le système de Leipzig, sauf que ça semblait un petit peu improvisé. Bon, il y a des problèmes d'individualité, en fait, mais Raphaël, si on reprend le discours de Mourinho, que je peux comprendre. À savoir, enfin, que je peux comprendre. Je peux comprendre qu'ils pensent ça, moins qu'ils le disent ouvertement, mais le côté, j'ai pas mes joueurs à disposition, c'est pas facile, hein. C'est vrai que ça serait mieux avec Son et Kane, surtout avec Son, je pense. Maintenant, tactiquement, j'ai rien vu qui pourrait un peu, on va dire, niveler les forces en présence. C'est-à-dire qu'on parlait dans l'épisode spécial du pressing du fait que bah, justement aller chercher où l'adversaire, tu testes sa capacité à relancer sous pression, tu introduis un aspect qui est moins footballistique, à savoir bah, faire des courses,
Ouais, c'est
bloquer des
ça.
espaces, un aspect sans ballon qui là peut être beaucoup plus facilement maîtrisé par entre guillemets tout un chacun que le fait de bien faire des passes. C'est-à-dire que tu as des gamins de 21, 22 ans qui vont être capables de courir partout et de bien contrer les angles de passe et d'enfermer l'adversaire. Et là, à la fois sur la manière dont Mourinho coach ses joueurs et la manière dont eux répondent sur le terrain, à aucun moment tu dis, bah lui fait en sorte de mettre une tactique qui nivelle les valeurs.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce que tu dis sur le fait de presser haut ou de réagir vite à la perte de balle, peu importe. Normalement, tu peux le faire avec n'importe quel joueur. Sur le plan technique, que le mec soit bon ou pas, peu importe. À partir du moment où athlétiquement et mentalement, il est prêt à répéter ces efforts-là. Et c'est marrant parce que c'est ce que je disais cette semaine avec les petits U12 du Red Star, on était sur la réaction à la perte de balle. Et je leur disais, mais même le mec le plus mauvais techniquement, il peut être décisif et il peut être très important dans la réaction à la perte de balle et il peut faire des différences grâce à ça. Vous n'avez pas besoin d'être bon ou d'être dans un bon jour techniquement ou d'être brillant techniquement pour juste être dans le thème réaction à la perte de balle. Et après, bon, ça n'a jamais été de façon un principe de Mourinho ou alors au début avec Porto. Parce que Julien, quand il faisait des visionnages du passé, nous parlait notamment de peut-être que du fait que Mourinho était plus moderne en 2004 qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais c'est étonnant de voir que ouais, tu n'utilises pas des. Si t'es pas satisfait des joueurs que tu as dans ce que tu aimerais faire offensivement, tu peux faire sans ballon et tu peux aller presser pour essayer de. Bah, comme le disait Klopp, le pressing haut, le pressing à la perte de balle peut être le meilleur meneur de jeu. Parce que ça peut le remplacer, parce que c'est toi qui décides où tu veux emmener l'adversaire et du coup où tu vas essayer de récupérer le ballon. Et à partir de la zone où tu vas récupérer le ballon, tu peux travailler sur les actions que tu construis pour finir. Et je sais. C'est toujours difficile de parler de Mourinho parce que j'imagine que le mec est brillant et ça se trouve quand tu parles avec lui c'est exceptionnel et derrière dans un staff il doit proposer des choses géniales et avoir des idées de séances dingues et je sais pas parce que le mec s'est formé, il a impacté plein de joueurs. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus incompréhensible de se dire ce mec est un génie, mais ce que je vois n'a rien de génial. Ça fait quelques années maintenant que c'est le cas, et du coup, c'est difficile de notre position de remettre en question un mec comme ça, parce qu'on a rien fait par rapport à lui. Et je pense que si on discute avec lui, le mec a plein de trucs à nous apprendre et à expliquer, bien sûr. Mais du coup, pourquoi, quand on regarde tes équipes, on ne voit rien qui nous, même pas nous éblouit, mais nous fait dire, ah oui, il veut faire ça, ou c'est cohérent, ou ça y est, on est en 2020. Et ça, c'est encore plus inquiétant, et c'est difficile de rester mesuré, par rapport à une telle incompréhension.
On en revient à ce que disait Flo, t'es dans un métier de transmission, ça sert à rien d'être intelligent si t'es intelligent tout seul, quoi. Si t'arrives
Ouais,
pas,
mais
si
je
t'as une
doute même
idée que les
que,
joueurs la
tu
comprennent
vois, je doute
pas.
même que Mourinho veuille transmettre des idées d'aujourd'hui. C'est ça mon doute.
Bah, du coup, il est pas si brillant que ça, parce que si,
Ouais, je sais
tu
pas.
vois, c'est comme si t'as un mathématicien génial, mais qui continue à te parler en franc. Bah, c'est bien, mais tu n'intéresses personne. Rentre avec tes écus chez toi. Là, s'il est sur les idées, c'est vrai que le foot évolue extrêmement vite. Et lui qui était relativement novateur avec Porto, maintenant toutes les équipes jouent comme ça, quoi. Donc je sais pas, Florent, est-ce que t'as un avis ou pas du tout? Est-ce que t'es encore choqué par l'arrêt de la saison NBA sur Mourinho soluble dans le football moderne en 2020?
Choqué par Tom Hanks surtout. Non, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect transmission. Le fait d'avoir passé une bonne partie de sa carrière après son éclosion à Porto à se poser en chantre de l'anti football qui a marqué les esprits qui a marqué les esprits de ceux qui sont aujourd'hui devenus footballeurs. Qui ont plus rêvé du Barça que des équipes de Mourinho, je pense, pendant cette période-là. Je pense qu'aujourd'hui, il le paye parce qu'il n'a pas réussi de son côté peut-être à faire sa propre révolution et à intégrer ces process, mais aussi parce qu'en face, si tu es entraîné par Mourinho, tu es entraîné certes par un mec qui a beaucoup gagné, etc., mais qui s'était posé médiatiquement comme un mec à l'opposé des idéaux peut-être footballistiques de l'époque. Je pense que ça joue pas mal aujourd'hui dans le fait que son message passe peut-être plus forcément auprès des joueurs.
On va pas développer sur Valence-Atalanta. L'Atalanta s'est qualifiée en gagnant 4 buts à 3, quadruplé du très beau et du très bon Josip Iličić, face à des buts de doublé de Gamero et but de Ferran Torres, la petite pépite. Enfin, rien de spécial à noter sur ce match. L'Atalanta a beaucoup moins cherché à faire du dépassement de fonction avec ballon. Ça a quand même relativement pressé, mais c'était assez calme. T'avais quelques pressing traps sur les côtés, notamment Vaas laissé seul pour qu'ensuite Freuler sorte sur lui ou Gosens. Enfin voilà, t'avais des choses comme ça que tu sentais très travaillées. Mais ça, on peut rentrer du technico tactique, mais le match était relativement vite plié. L'Atalanta n'a pas trop cherché à attaquer. Elle a parfois été trouée par Valence, qui a fait un match plutôt intéressant malgré tout. Parce qu'après les buts de l'Atalanta sont mis alors que là, il faut vraiment que Valence marque beaucoup. Donc du coup, Valence se déstructure beaucoup vers l'avant, laisse des espaces, et les deux derniers buts sont assez anecdotiques. D'ailleurs, je conseille de voir la fin de match d'Ilicic à tous. Alors déjà, il demande à sortir après son troisième but, mais globalement, bon, il met le quatrième, mais sinon toutes ses touches de balle, il arrive quasiment plus à bouger, et il fait des espèces de chandelles, des passes qui vont en tribune à l'autre bout. Enfin, il peut absolument plus jouer au foot, il est totalement cramé, mais n'empêche qu'il termine le match et qu'il arrive à mettre un quatrième but. Et noter, certaines personnes me l'ont fait remarquer sur Twitter, notamment notre ami Frankie Philly et une autre que j'oublie parce que là j'ai eu trop de mentions, je n'arrive pas à remonter. Mais j'avais dû dire du mal de Diakabi relativement récemment, dire que je ne comprenais pas exactement quelles étaient les qualités de ce joueur hormis les têtes offensives. Et il a encore malheureusement pour lui prouvé, parce qu'au-delà de cette difficulté avec ballon, il a encore défendu n'importe comment, fait deux fautes qui coûtent un penalty, un tacle assez difficile à comprendre sur donc ce Iličić, et une main où bon, il sort la main, c'est assez étrange, donc il sort à la mi-temps. Et voilà, là, Diakabi titulaire en huitième de finale de Ligue des Champions défense centrale, c'était pas prévu parce que normalement il est plutôt troisième défenseur dans la hiérarchie, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Et quand tu vois certaines individualités de Valence, tu dis qu'il faudrait vraiment un collectif extrêmement fort pour compenser ça, parce qu'autant à Atalanta il n'y a pas que des stars, autant là tu vois le 11. Alors il y a quelques bons joueurs, hein, mais Kondogbia cette saison c'est pas top, Rodrigo était absent les trois quarts de la saison, Gamero fait quand même sa petite trentaine, il arrive à marquer des buts, mais sorti de ça, il n'y a pas non plus énormément de choses. Coquelin, ça devient, je pense, son palier. Donc voilà, belle perf de l'Atalanta. Malheureusement, j'ai peur qu'il n'y ait plus de foot et qu'il n'y ait plus de Ligue des Champions pour voir la suite. Mais au moins, on aura vécu un joli ride, une jolie aventure. Messieurs, il n'y aura pas de vrac. Nous n'avons pas réfléchi à des vracs. Il est 2h44. Nous sommes tous un petit peu fatigués. On va donc passer au pari avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les paris, où il y a quelque chose d'assez amusant, c'est qu'au départ, je ne pensais pas animer. Je pensais laisser cette tâche à Raphaël qui a préféré débattre plutôt qu'être à l'animation. Et du coup, Raphaël, tu as pris mes paris.
En effet, Christophe, j'ai pris tes paris. J'étais même en train d'aller les chercher pour les expliquer, puisque tu as souvent des paris brillants. Et mes derniers paris.
Tu as joué sur une bonne série et je suis le meilleur cette saison.
Oui, et j'ai raté mes deux derniers paris. C'était un but de Sadio Mané et un but en première mi-temps pour Leipzig Tottenham. Bon, je me suis foiré complètement, donc j'ai vu tes paris. Je me suis dit, vas-y, je vais m'inspirer du grand Manitou.
Quels sont-ils et est-ce que tu crois à ces paris? Est-ce que tu arriveras à les justifier?
Bien sûr, je crois à ces paris. Et le premier pari, c'est Toulouse-Metz, victoire de Metz à 2,60. Ai-je besoin de me justifier sur un tel pari? Parce que la dernière victoire de Toulouse remonte à je ne sais plus quand. J'ai l'impression que beaucoup de gens étaient...
C'était contre Lille à l'aller, il me semble, avec le premier match de Comboiré, si je ne dis pas de bêtises.
Ah d'accord. Ah oui, bah, on est d'accord. Donc oui, il y a eu du monde viré depuis. Donc 2,60, c'est une cote assez faible pour une victoire à l'extérieur quand on s'appelle Metz. Alors, Toulouse joue un peu jamais à domicile, mais là, ce sera encore plus le cas, puisque les stades de Ligue 1 vont être tous à huis clos. Est-ce que la saison ira jusqu'au bout? On ne sait pas. Est-ce que Toulouse ira jusqu'au bout de sa saison? On sait encore moins. Mais la prochaine sera sans doute en Ligue 2. Ils sont déjà complètement décrochés. Metz, par contre, joue son maintien. Il y a une seule équipe motivée. Il n'y a plus le facteur domicile du tout. Donc Metz à 2,60, ça me semble vraiment pas mal comme cote pour un match en terrain neutre avec une équipe qui joue des choses et l'autre pas du tout. De 60, je pense que c'était à peu près ta justification, Christophe.
Ouais, bon, t'as fait le même en moins bien, mais effectivement.
Ah, bien sûr. Bah oui, j'ai pas le même sens du verbe que toi, mais c'est mon premier pari, et ton premier pari Ligue 1 en réalité.
Je dirais même, tu n'as pas le même bagou. Ah, quel est ton deuxième pari, Raphaël Kosmidis?
Alors celui-là est un peu plus compliqué. Hein. J'ai essayé d'y réfléchir, Christophe. Je suis allé sur Understat voir les derniers matchs de Strasbourg. Le pari, c'est score exact à la mi-temps, 0-0. Alors, pourquoi pas sur un Strasbourg-Dijon, mais sais-tu que Strasbourg récemment a quand même connu des matchs à but? Alors, ils ont fait certes, lors de la dernière rencontre à domicile, 1-0-0, mais ils avaient fait avant ça une victoire 3-0 contre Reims à domicile, une défaite 2-1 contre Lille, une victoire 2-1 contre Saint-Étienne, une victoire 4-2 contre Toulouse. Donc là, pourquoi ce 0-0? Je me dis que le huis clos peut jouer aussi, puisque ça va changer l'ambiance et la méno est très important pour les performances de Strasbourg, mais j'aimerais que tu m'aiguilles un peu.
Bah, c'est-à-dire que la méno joue quand même un grand rôle dans cette réflexion. non, mais sincèrement, là, voir les... Alors déjà, bon, tu donnes des informations parcelles et parcellaires, puisque genre, tu mentionnes là, la volée à Montpellier qui gagne 3-0 contre Strasbourg, comme si c'était une raclée mémorable, il y avait 0-0 à la mi-temps, donc c'est-à-dire que ce pari serait passé haut la main. Victoire 3-0 contre Reims de Strasbourg, quel score y avait-il à la mi-temps? Je te le demande.
0-0. Mais je ne comptais que les 0-0. Matchs à domicile, puisqu'on est sur un match... Alors après, on est plus...
Laisse-moi tranquille. Toulouse-Strasbourg, victoire 1-0 de Strasbourg. Quel score y avait-il à la mi-temps? Eh bien, il y avait 0-0. Tout ça pour dire que Strasbourg, même quand il y a des buts, la première mi-temps est assez calme. Alors dans une méno qui fera un silence assourdissant, pourquoi y aurait-il plus d'animation cette fois-ci, finalement?
J'ai laissé le même silence que la méno laissera sur le 0-0 à la mi-temps, parce qu'en effet, je suis complètement convaincu, et ce pari à deux têtes, ce pari un peu hydre, va passer, c'est sûr.
Oui, vous m'avez convaincu, patron, c'est une bonne raison. Quel est ton premier pari, Florent?
Je vais rester sur Strasbourg-Dijon.
Et ah
je
bah,
vais... bravo. Bah oui, c'était annoncé, c'était présenté. Et je vais aller vers le buteur Ludovic Ajorc, qui avait traversé une très bonne période en décembre cet hiver, en marquant 5-6 buts, je pense, avant la trêve. Ça s'était un peu calmé en janvier, il n'a pas marqué depuis fin janvier, depuis le 25 janvier exactement. Mais je me dis que face à Dijon, qui est une équipe qui a de vraies difficultés pour garder ses cages inviolées, particulièrement à l'extérieur d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas fait de clean sheet à l'extérieur depuis le 19 octobre. Je me dis que même dans une méno vide, Ajorque finira par trouver la solution. Donc je pars sur Ajorque buteur qui va se relancer sur ce match-là. Et c'est coté à 2,80.
Quel est ton deuxième pari, mon cher Florent Tognutti?
Et le deuxième pari, c'est vers. Ça part à La Beaujoire, donc La Beaujoire qui sera aussi vide, pour Nantes qui va recevoir Nîmes. Et le pari, c'est un peu un contre-pied par rapport à ce que faisait Nantes sur la première moitié de saison, notamment, puisque c'était une équipe où il y avait très très peu de buts marqués dans ces matchs. Je pense que d'ailleurs qu'on a joué plusieurs fois les moins de 1,5 buts dans les matchs du FC Nantes, ou les 0-0 à la mi-temps, ou des choses comme ça. Ça a un peu changé ces dernières semaines, puisqu'il y a quand même. Trois matchs sur les 6 dernières semaines de compétition où il y a eu plus de 3,5 buts dans le match, alors qu'il n'y en avait eu que 2 sur toute la phase aller. Donc ça s'accélère un petit peu le nombre de buts. Les matchs du FC Nantes s'ouvrent un petit peu. C'était le cas notamment face à l'OM où ça a gagné 3-1 au Vélodrome. Face à Dijon, ça a fait 3-3. Et face à Rennes où ça perd 3-2. Et en face, Nîmes est une équipe qui ouvre aussi volontiers le jeu. Ces derniers temps, qui est beaucoup plus offensif depuis le mois de janvier et leur mercato réussi avec au-delà de Ben Raoult, l'arrivée de Koné, l'arrivée de Nolan Roux. Donc c'est une équipe qui a sorti la tête de l'eau en jouant au ballon et en étant tournée vers l'attaque et qui a en plus maintenant des joueurs pour marquer, qui n'a fait qu'un seul match justement sans marquer depuis le mois de janvier. C'était face à Rennes et c'était un match en retard où les recrues justement n'étaient pas là. Donc je me dis qu'avec une équipe de Nantes qui est un peu plus expansive, un peu plus offensive depuis quelques temps, même si ça lui réussit pas forcément au niveau résultat. Et en face, une équipe de Nîmes qui ouvre aussi le jeu et qui en plus a pas forcément une défense qui est capable non plus de le fermer. Eh bien, je pars sur un match à plus de 3,5 buts et c'est coté à 3,75.
Merci Florent. Qu'est-ce que tu peux annoncer pour la suite des événements?
Alors, eh ben, déjà, ça c'est compliqué. Déjà, la semaine prochaine, normalement, on devait faire double dose de podcast puisque Ligue des Champions. Donc, on devait peut-être enregistrer au soir de Juve-Lyon et puis vendredi pour le tirage au sort des quarts de finale. Bon, ben, ça, on va attendre de savoir comment ça va se passer hein, pour envisager les podcasts gratuits. Par contre, eh ben, côté saga, on a toujours pas mal de matchs à regarder et pas mal de podcasts à enregistrer. Donc côté Patreon et côté Saga, il y aura ce qu'il faut. On va enregistrer dès la fin de semaine, là, dès ce vendredi, l'épisode 3 consacré au Saga 2012 et donc consacré au premier tour de l'équipe de France. Moi j'en suis à un match et demi, je sais pas vous.
Moi, j'ai fini.
T'as fini.
Je suis toujours à un demi-match.
Un demi-match. Ah ben, il va falloir rattraper ça là, parce que ça va arriver
Oui.
vite. Mais donc voilà, on va enregistrer ça. Ouais, ça devrait être sympathique autour de la génération 87 et de l'excellente ambiance qu'il a semblé y avoir dans cette équipe de France.
Il y a beaucoup d'Aloudira plutôt en positif. Il y a beaucoup de dézonage de Benzema qui sont, ça va. Tu as aussi beaucoup de Menez, beaucoup de Nasri. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Du Cabaye plutôt bon. Enfin, c'est assez amusant de voir ça avec les yeux de 2020 parce que c'est pas forcément voilà ce que tu disais en privé avant qu'on enregistre Florent. Le côté Cabaye est un peu le leader technique de cette équipe au milieu. Avec nos yeux de maintenant, c'est un peu rigolo, mais à l'époque, c'était plutôt vrai.
Oui,
Donc
c'était totalement vrai.
on
On développe.
développera tout ça et le fait que l'équipe de France était sur du FC Alessandro Diamanti à ne frapper que de 25 mètres.
Oui, les expected goals, c'était pas encore vraiment installé. Ça se construisait les modèles à l'époque. C'est vrai qu'on les avait pas eus, mais je pense que les chiffres de l'équipe de France auraient été assez rigolos, vu le nombre de tirs qu'elle a pris dans chaque match. 21 déjà lors du France-Angleterre. Donc voilà, on va enregistrer ça. On est mi-mars, donc on va y avoir une FAQ aussi qui va arriver, toujours sur patreon.com/vuedubansaga. Mais c'est vrai que sur les prochains jours, en termes de gratuit, on peut difficilement annoncer le programme. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup encore de sagas et de contenus qui vont arriver sur Patreon.
Bon, bah ça marche, et puis on vous tiendra au courant sur Twitter dans les prochains épisodes, sur notre Discord de comment s'organiser si le foot se raréfie, parce qu'on a quand même, on s'est engagé sur un certain nombre d'épisodes, donc il va bien falloir les faire, il va bien falloir trouver comment angler tout ça, mais vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas,
Il en
on
reste
reste avec vous.
18,
Il en
exactement.
reste 18, voilà. Donc, bon, après, on avait fait un épisode là, spécial pressing, pas spécial podcast, qui était un petit peu intemporel et qui sera encore valable dans 6 mois, dans 1 an. Donc, on a encore d'autres idées pour faire des sujets un petit peu plus généraux. Si jamais on est en manque de foot, ce n'est pas que je n'arrive plus à parler, je suis fatigué.
Il
Ce
est
n'est pas
3
qu'on
heures
n'aime
du
pas
mat,
ça.
c'est bon.
C'est pas qu'on n'aime pas ça, mais c'est sûr qu'on préfère aussi alterner avec des matchs à débriefer. Et effectivement, les 3 heures du matin, donc ça devient très difficile, je n'en peux plus. Donc je vais rendre le micro. Merci messieurs, rien à rajouter, Raphaël, Florent.
Non.
Non, ciao.
Bon, bah ciao.
Salut.
Et cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.